Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, 17h06 sur RMC. Très très heureux de vous retrouver sur RMC pour l'Intégral Sport. Un Intégral Sport exceptionnel en direct du stade Charletti depuis 14h, puisqu'on a lancé l'immense défi: boucler 350 km en 24h dans une course de relais mixte. 144 coureurs se relaient pour inscrire ce record dans le Guinness Book. Et il ne faut pas hésiter à nous rejoindre dans les tribunes de Charletti en médecine. On remercie d'ailleurs tous ceux qui sont déjà dans les gradins, entrée libre pour venir nous voir. Il y a des cadeaux à gagner également. Vous pouvez voir des légendes comme Paula Radcliffe, qui a couru tout à l'heure à 16h et qui sera avec nous en direct dans un instant. Pierre Rabadan est en ce moment sur la piste. Il nous rejoindra aussi, on l'espère, pas trop fatigué, parce qu'il y a aussi un énorme programme rugby à suivre lors de cet Intégral Sport sur RMC, avec à 17h30 Vannes Grenoble, c'est la finale de Pro D2, le vainqueur qui jouera en top 14. Et puis grosse soirée top 14 sur RMC avec la dernière journée de la phase régulière, une journée avec de l'enjeu quasiment partout pour la qualification directe en demi-finale, pour les places de barragistes. On vous explique tout à partir de 18h avec tous nos envoyés spéciaux. Et puis comme nous sommes à la veille de France-Canada, deuxième match de préparation à l'Euro pour l'équipe de France de foot, eh bien on aura Jeannot Rességui avec nous pour les toutes dernières infos avant ce match. Antoine Griezmann et Didier Deschamps sont en conférence de presse à partir de 17h. On vous raconte tout ça à partir de 18h30. Et puis grâce à RMC, vous pouvez vous équiper justement pour suivre les Bleus pendant l'Euro. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec un barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 €. Mais vous pouvez aussi ouvrir le fameux coffre RMC dans lequel il y a la Total Euro 2024. Vidéoprojecteur Samsung, écran de projection sur pied portable, barbecue électrique, fumoir Ninja, un fauteuil FFF Konix, une machine à glaçons et la mascotte de l'Euro 2024. Vous pouvez également gagner une enceinte connectée LED avec micro pour écouter RMC pendant tout l'été et pendant notamment l'Euro. Dès que vous entendez ceci, ça peut arriver à tout moment, ce signal sonore. Il faut envoyer coffre au 7-32-16. Coffre au 7-32-16. Allez, c'est parti pour l'Intégral Sport en direct du stade Charletti, où on va retrouver notre envoyé spécial, un petit peu spécial, Pierre Thévenet, un peu partout. Salut Pierre.
Salut François, salut à tous.
Alors il faut que tu nous dises où on en est là. Depuis 14h, ça y est, le grand défi RMC, le record du monde va peut-être tomber. Où on en est actuellement, Pierre?
Mais on est très très bien, on est très bien. François, on a passé la barre des 50 km parcourus. Il en reste 298. C'est le quatrième groupe de relayeurs qui est actuellement en train de courir. Pierre Rabadan, vous le disiez, vient de terminer son relais. Il est arrivé au dernier moment en jean, en chemise, à peine échauffé. Il a tenu ses trois tours avec les cheveux au vent. C'était parfait pour Pierre Rabadan. On est en avance évidemment sur le record du monde, un peu plus de 3 km d'avance sur les temps de passage qu'il faut faire. Donc tout va très bien.
Tout va bien.
Et à chaque passage, on essaye souvent de battre le petit record du tour qui avait été instauré tout à l'heure par Souleymane Sissoko en 1-0-2, le boxeur olympique. Il a été battu il y a quelques instants par Idriss en 1-0-0.
Il
a fait un tour à fond.
Il a fait quelques tours.
Il a fait quelques tours, puis il est revenu à la fin pour faire son tour à fond. 1-0-0, voilà pour l'instant le record à battre. On a réalisé 129 tours dans ce record du monde.
Et là, super, Pierre, on va te retrouver tout au long de cet après-midi et de cette soirée, et même bien sûr jusqu'à demain 14h pour vivre en direct ce record avec nous. On est très heureux d'avoir Paula Radcliffe. Bonjour Paula.
Bonjour.
Alors tu étais tout à l'heure avec Christophe Cessieux avant la course, tu es aux côtés de Sacha Rosenthal. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Patron de Xefi, hein, c'était l'équipe d'ailleurs avec Paula pour justement essayer peut-être de prendre un peu de temps d'avance justement. Est-ce que on est bien là sur les temps du record là? Pierre nous disait à l'instant que c'était bien. J'ai l'impression que vous avez bien fait le travail tous les deux.
On a donné son meilleur. Hein. on a essayé au maximum. Donc on a bien travaillé en équipe et ça a été un plaisir d'être ici parmi toute l'équipe qui travaille pour ce record.
Comment on s'est senti sur la piste, Sacha?
Je crois que chacun fait sa part du job. On a pris un plaisir de dingue, mais on était sérieux, je pense. Hein.
Tous. Il y a du vent. Hein.
Il y a du vent. Ouais.
Ah oui, ça c'est un peu gênant parfois.
Ouais.
Le sixième tour,
ça
on a fait.
Comment le vent, s'il est dans le dos, en général ça aide, non?
Non, mais c'est un tour, donc il y a un moment où c'est. Ça passe.
Vous avez bien compris que moi je courais rarement. Et donc, Sacha, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un vrai esprit d'équipe collectif. parfois, bah, Paula, tu as fait plusieurs tours, Sacha aussi, il me semble, tu as repris le relais à quelques moments. Et puis, parfois, pour soutenir vos coéquipiers, tous les membres de votre team, là, vous étiez derrière, vous jouiez un petit peu le rôle de lièvre, c'est ça?
Bah, c'est ça qu'il faut, parce qu'on sait qu'il faut rester motivé, il faut toujours encourager l'équipe, et il y a des moments durs, et surtout à l'arrière en fait, du tour, sur le derrière, là, parce que là, il faut encourager, parce qu'il n'y a personne.
Ah oui, c'est ça.
Ouais. L'atmosphère manque un peu, et c'est ça qui nous aide.
Bah, venez nombreux, voilà, justement, pour encourager les coureurs. Il y a notamment un ancien sprinter, Nasser Bouani, qui va courir tout à l'heure. Il y aura également Claude de Koh-Lanta qui sera là. Donc venez, hein, c'est ouvert à tout le monde, évidemment. Charletti, aujourd'hui, tout l'après-midi et jusqu'à demain, pour suivre justement ce record du monde. Sacha, grand sportif, en plus d'être un patron, hein, comment on se prépare pour une course comme ça? Il y a beaucoup d'heures de préparation, beaucoup de prépa.
Tous mes collaborateurs ont bien préparé. Moi, un peu moins, j'étais blessé.
Ah mince.
Ça fait 15 jours que je cours pas.
Ça s'est pas vu, hein.
Non, je sais, mais j'ai tout fait pour pouvoir venir courir. Ça fait 15 jours que je cours pas, mais j'ai pas fait de préparation spécifique. Par contre, tout au long de l'année, je m'entraîne quand même. Je fais du vélo, de la natation et un peu de course à pied. J'ai eu beaucoup de blessures cette année, mais ça, voilà, ça a passé. Je suis un coureur d'origine.
Passage de relais avec Paula Radcliffe, évidemment, ça reste.
Ah ben, c'est inoubliable.
Et surtout, il y a la motivation du record et aussi le fait de n'avoir pas couru, ça nous manque.
Ouais,
après, c'est un plaisir de retrouver la course à pied, ouais. Et ça se voit.
Ah ben, j'ai pris un plaisir de dingue.
Et d'ailleurs, vous voyez encore courir un petit peu après, effectivement, et vouloir reprendre des relais. Ça, c'est vraiment bien. Sacha Rosenthal, donc patron de XFI, je le disais, très grand sportif. Ce qui fait que ça déborde parfois peut-être sur ton travail. En tout cas, tu veux mettre du sport dans l'entreprise, hein. C'est un peu ça aussi. Il me paraît que tu as une piste d'athlétisme, c'est ça, dans ton entreprise, non?
Ah oui, alors au siège social de l'entreprise, on est un petit peu plus de 500 au siège, on est 2000 en tout. J'ai une piste d'athlétisme, en effet, mais j'ai aussi une salle de biking, une salle de sport calme, yoga, etc.
D'accord.
J'ai aussi un espace basket, un espace TRX,
une
salle kiné. Non,
j'ai les gens travaillent quand même dans ton entreprise.
Oui,
ils font que du
mais
sport.
Au siège, il doit y avoir. On a dépassé les 35 sessions par semaine de sport, matin, midi et soir.
Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est une vraie volonté. Tu penses que vraiment, là, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, que c'est très, très important d'installer justement cette volonté de faire du sport au travail?
En fait, j'ai 5 salariés temps plein dédiés au coaching sportif et 35 prestataires de services. Donc, il y a 40 coachs. Je pense que c'est fondamental. Il faut une vraie conviction parce que c'est un gros investissement. Mais je me pose même plus la question de savoir. D'abord, notre première démission, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs soient en santé quand même, un minimum. Après, on peut pas rentrer dans leur vie privée, mais faut leur offrir ça. C'est leur offrir aussi la santé, le bien-être et la capacité à surmonter le stress, surmonter, parce qu'en entreprise, il y a du stress, ouais. Il y a de la pression. Et c'est cette capacité à bien l'assumer, la capacité à se connecter en équipe, à se sentir en confiance aussi et donner de la confiance aux autres.
Donc, c'est aussi une image que l'on veut renvoyer aujourd'hui et demain à travers RMC, à travers la course, parce qu'il y a énormément de gens qui font de la course et d'ailleurs qui doivent nous écouter actuellement, qui sont connectés pour le podcast Running aussi d'RMC qui marche très très bien avec Benoît Boutron. Et c'est vrai que on sent que ça fait du bien de courir, hein. C'est pas seulement pour la performance sportive, Paula.
Non, pas du tout. Il y a tant de parallèles entre le monde du commerce et le sport, mais le monde normal de tous les jours, là aussi on a des défis, on a des challenges qu'il faut surmonter. Il faut toujours savoir qu'il y a des choses dans la vie qui sont difficiles, les trajets là, et il y aura également des trajets magiques qu'on peut vivre. Donc si on peut faire tout ça avec un peu de perspective et un peu plus de santé, c'est toujours bien, et c'est une forme de motivation et de trouver des perspectives dans la vie.
Oui, effectivement. Comment il était, Sacha, sur la foulée de Sacha, puisque maintenant on va demander à la légende Paula Radcliffe de juger Sacha Rosenthal. Il était
comment? Ça se voyait pas du tout, la blessure, c'était très très bien.
Elle est sympa ou non?
Ouais.
et le record là, t'as pas cherché à le battre, hein? On a entendu tout à l'heure Pierre qui disait qu'il y en avait certains qui voulaient absolument battre le record au tour.
Non, moi je pense.
C'est quoi
même
ton record,
d'ailleurs, il y a 20 ans,
sur un tour
j'aurais
de piste.
Pas pu.
Ah, ouais.
Et surtout pas maintenant.
Mais le but du jeu, c'est de durer, hein, rester le plus longtemps possible.
Pour l'instant, c'est un membre de notre équipe qui l'a. Hein.
Ouais.
Ah oui, d'accord, ouais, parce que ça se tire la bourre entre chaque équipe, évidemment. Ouais. On sait pas si Pierre Rabadan, d'ailleurs, qui va nous rejoindre dans un instant, est encore en forme. On demandera d'ailleurs peut-être évidemment à Paula comment tu as vu Pierre Rabadan là. Tu l'as vu un peu courir, il était bien ou pas?
Oui, il était bien, hein.
Parce que pourtant il est arrivé sans échauffement, comme nous le disait Pierre.
Ah oui.
Alors, on rappelle quand même pour les gens qui nous écoutent qu'il faut quand même s'échauffer un minimum.
Ouais. Mais c'est peut-être mieux de ne pas s'échauffer trop, parce que nous, on s'est échauffé et on a commencé trop vite.
On est parti vite.
Vous êtes parti trop vite ?
Ouais, en tout cas, vite.
Bon, en tout cas, c'était, j'imagine, pour vous une super expérience. Pour nous aussi, évidemment, c'était formidable. Et notamment de te retrouver, Paula, sur une piste, tu le disais, ça
fait du bien. Donc, merci de m'avoir invité ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas été ici, à l'intérieur du stade Charletti, et visant les jeux qui arrivent cet été. Ça va être super.
Et justement, comme les Jeux Olympiques arrivent, là, il y a les championnats d'Europe que l'on va suivre d'ailleurs sur RMC tout le week-end et toute la semaine prochaine à Rome. Il y a Aurélien Tirsin qui est sur place. Il y a des Français qui peuvent peut-être briller, on l'espère d'ailleurs.
Qui brillent déjà.
Oui, c'est vrai, mais on est un peu exigeant avec l'athlétisme français. Comment tu le juges, toi, justement, le niveau de l'athlétisme français à quelques jours des Jeux Olympiques ?
Bon, je pense que toujours, le niveau des athlètes à la maison, ça va augmenter. Ouais. Pour les Jeux, ça c'est sûr, et on voit ça déjà avec les résultats qui arrivent de Rome là. Ouais. On a eu les qualifs dans les 800 mètres là. Paul, il a super bien couru, donc ça s'annonce.
Ah, tu suis quand même encore, évidemment très très près, et même les résultats des Français. C'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques de Londres, on avait vu à quel point l'ambiance à Londres avait poussé les athlètes anglais. On espère aussi, Sacha et Paula, que ça va réussir, ça va sourire aux athlètes français pour ces Jeux Olympiques.
Ah, on espère. On sera devant notre télé. Moi, je suis un grand supporter, évidemment, de tous les sports. Donc, on espère. Mais il n'y a pas de raison. À la maison, je suis sûr qu'on se transcende.
Ça se voit dans les 5000 aussi. Ouais. Il y avait Bartoklati d'Italienne qui a battu son record pour des salies.
C'est sûr.
Donc, il a toujours cette augmentation d'énergie, de motivation, parce qu'on est chez nous.
Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sacha Rosenthal. Merci. Je rappelle, patron de Xefi et donc coureur, triathlète, il me semble.
Triathlète, oui.
Pas seulement la course à pied, mais triathlète. Et puis Paul Radcliffe, légende de la course, voilà, qui est venu participer à ce record du monde. On espère que
ça va le faire.
Et bon courage pour tous qui vont suivre.
350
km. Ceux qui font pendant la nuit.
Oui, pendant la nuit, il faut continuer à les encourager.
Et si je parle là pendant la nuit ?
Alors, on verra. Joker.
Merci en tout cas. Joker. Merci à Paula. Merci. Mon équipe était aux anges. Enfin, merci. On a fait une super équipe.
Super équipe. Et il y a d'autres équipes là qui vont continuer et que l'on va suivre évidemment tout l'après-midi, toute la nuit et demain évidemment sur RMC pour que ce record tombe. Record du monde donc de relais, 350 km à faire en 24 heures. Merci à tous les deux. À tous les deux d'être passés dans ce studio exceptionnel sur la piste, à côté de la piste de Charletti, où l'on retrouve Pierre Thévenet. Pierre, tu es avec. Un invité, Pierre, c'est ça ?
Eh oui, un invité, Idriss, qui a battu lui le record retour en 1-0-0. Comment tu t'es senti, Idriss, tout à l'heure sur la piste ?
Mais sur la piste, c'était incroyable. Du coup, il y avait le monde, il y avait l'euphorie. Du coup, t'oublies toute douleur, t'oublies tout et tu cours, tu te concentres sur ton allure et sur ta foulée. Et du coup, c'était incroyable.
Courir dans la même équipe que Paula Radcliffe, qu'est-ce que ça fait ?
C'est extraordinaire. Je la connaissais de nom, du coup, dû à ses exploits au marathon, avec ses 2h15 au marathon, c'est extraordinaire. Et du coup, c'était un bel exemple, il fallait pas décevoir.
Vous êtes en avance pour l'instant sur les chronos. T'as confiance en tous les coureurs qui vont arriver dans la journée ?
Mais totalement. J'ai entièrement confiance en tous les coureurs. On est actuellement en avance, donc je me dis, il y a pas de problème. Il y a que des bons coureurs et ça va le faire.
En tout cas, tout continue à très très bien se passer. Le dernier tour s'est fait en 1:32, donc on est toujours dans les temps. 135 tours réalisés, il en reste 740 et on arrive aux 3h20 de course et aux 55 km parcouru.
T'as le temps de Pierre Rabadan ? Non, tu l'as pas eu le temps de le noter peut-être.
J'ai pas eu le temps de Pierre Rabadan.
On va chercher ça parce que Pierre arrive.
Je vais te chercher
instant.
Ça et je te dis ça très vite.
Voilà, parce que il arrive dans un instant. Pierre Rabadan, membre de la Dream Team Rugby évidemment, puisque dans un instant on revient sur RMC dans l'intégral sport exceptionnel. Vous l'avez compris, en direct de Charletti, on va vivre ensemble Vannes Grenoble avec toute la Bretagne au soutien de cette équipe de Vannes qui affronte Grenoble dans la finale de Pro D2 pour savoir qui de Vannes et de Grenoble et bien montera en top 14 à l'issue de cette rencontre. Et bien c'est dans un instant, à suivre en direct et en intégralité avec Wilfried Templier aux commentaires. Restez avec nous, on revient tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
De retour en direct de Charletti, Intégral Sport exceptionnel aujourd'hui. À partir des 14h, nous avons lancé le record du monde de course, 350 km à parcourir en 24 heures. Pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est jusqu'à 14h demain, vous l'avez compris, en direct de Charletti. Et c'est ouvert, vous pouvez venir nous voir. Le studio a été délocalisé exceptionnellement. Stephen Brun sera avec Benoît Boutron pour Stephen Time à 19h en direct également de Charletti. Vous pouvez croiser évidemment pas mal de vedettes comme Paul Paul Radcliffe qui était en direct avec nous. Il y a Pierre Rabadan qui va nous rejoindre dans un instant pour parler rugby. En tout cas, ça lance l'été de folie sur RMC, radio officielle de l'Euro, je vous l'ai dit, radio officielle du Tour de France et radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc évidemment, c'est une grande journée de sport sur RMC, avec notamment au programme du rugby, puisque avant la grande soirée Top 14, un petit apéritif, mais quel apéritif, Van Grenoble, c'est de la Pro D2 et on est en direct de Toulouse où se passe ce match avec Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut François, bonjour à toutes et à tous.
Alors dans un instant, Pierre Rabadan va arriver, mais excuse-le, il vient de faire deux tours de piste, là, il est fatigué. Donc on le laisse se reposer et reprendre son souffle.
C'est ce que c'était.
Il arrive dans un instant. On va parler avec toi évidemment de ce match qui va débuter à 17h30. Deux clubs au destin bien différent cette saison. Ouais. Et on a l'impression qu'il y a un élan derrière Vannes, parce que ça pourrait être historique, toute la Bretagne est derrière le club.
Des Bretons en top 14, imagine ça, François. C'est vrai que voilà, tout un territoire y pense, en rêve. C'est jamais arrivé, ce serait historique, tu l'as dit. Van a déjà joué trois demi-finales, n'avait jamais été en finale et c'est la première fois qu'il touche du doigt. Donc l'idée d'aller jouer dans l'élite du rugby français, les Vannetais qui ont fini deuxième de la saison régulière, qui ont battu Béziers en demi-finale. Donc le RC Van, c'est vrai, ils sont 5000 Bretons aujourd'hui, et Ernest Vallon joue à guichet fermé. Il y a un tiers, on va dire, un peu moins d'un tiers, un gros quart du stade qui est aux couleurs de Vannes. Ils font beaucoup de bruit, ils sont très énervés, les Bretons, très excités, et ils mettent une ambiance de dingue. Alors il y a des Grenoblois aussi, mais c'est vrai que Vannes, c'est le rêve de toute une région.
Oui, en plus c'est un club qui a une histoire particulière avec son manager, hein, Jean-Noël Spitzer, qui n'a connu que ce club en fait, y compris dans les en fédéral aussi. Hein.
Qui était en fédéral 2 niveau amateur. Alors, à l'époque c'est 5e, 6e division, maintenant ça a un peu changé, mais oui, il vient du milieu amateur avec son équipe de Vannes, donc l'histoire est quand même incroyable.
Et puis du côté de Grenoble, alors Grenoble avec une saison difficile.
Elle est pas moins incroyable l'histoire aussi.
sur le plan des nerfs, parce qu'effectivement, il y a eu cette menace de relégation nationale, des points retirés, puis finalement réattribués. Enfin, explique-nous ce qui s'est passé cette saison pour qu'ils se retrouvent là en finale de Pro D2.
Mais ils ont perdu la dernière finale de Pro D2 face à Oyonnax. Ils ont perdu l'access match contre Perpignan il y a un an. Et trois jours après, ils apprenaient leur relégation en division inférieure. Alors que les deux équipes rentrent sur le terrain et qu'il va y avoir une Marseillaise comme en finale top 14. Et donc les Grenoblois ont finalement été au mois de juillet maintenus avec 6 points de moins au classement. Ils sont remontés, ils ont fait une bonne première partie de saison. Mais en décembre, ils apprenaient qu'ils avaient à nouveau 6 points de moins au classement. Donc ça a été très difficile. Ils en ont récupéré 4 avec une augmentation de capital. Donc sur l'ensemble de la saison, ça fait 8 points en moins. Sauf qu'ils ont gagné 11 de leurs 13 derniers matchs. Ils ont fait un parcours retour incroyable pour finir 4e et ensuite aller battre, écraser Dax en barrage et aller battre le leader Aix-en-Provence, le leader de la Pro D2, d'un point chez lui en demi-finale. C'est la meilleure attaque, c'est une équipe de feu Grenoble, et puis voilà, qui a un petit supplément d'âme cette année avec ce qui leur est arrivé. Ils sont passés par toutes les émotions, ça a été très très dur, mais c'est le jeu le plus léché, le top 14 face à Vannes, la meilleure défense. Donc il y a deux identités qui s'opposent, deux équipes vraiment, mais une fête incroyable ici, Ernest Vallon, pour une seule place en top 14 pour le vainqueur. Et on rappelle, François, que le vaincu n'aura pas tout perdu, puisque le vaincu affrontera Montpellier le week-end prochain. Oui. Ce sera dimanche à 18h le week-end prochain, soit à Vannes, soit à Grenoble, chez le club de Pro D2. Et que le vainqueur de ce match ira en top 14 et le vaincu en Pro D2. Donc ce sera un match très particulier pour les Montpelliérains, qui doivent regarder d'un œil, puisqu'ils jouent ce soir à Clermont lors de la 26e dernière journée du top 14. Les Montpelliérains vont avoir un œil sur ce match. C'est un de leurs futurs adversaires le week-end prochain.
Très très belle ambiance, Wilfried, à Toulouse pour ce match entre Vannes et Grenoble. On a vu effectivement pas mal de drapeaux bretons, les Bretons qui se sont déplacés en masse pour peut-être vivre un moment historique. Évidemment, on n'oublie pas les Grenoblois qui, après cette saison très difficile sur le plan des nerfs, pourraient remonter en top 14. On va vivre évidemment avec toi cette rencontre, le coup d'envoi dans un instant. On accueille Pierre Rabadan qui est avec nous. Salut Pierre.
Salut à tous, salut François.
Ça va, t'as pas l'air trop fatigué.
À peu près. Ça va.
Je t'ai vu faire deux tours ici à Charletti.
J'ai pas battu le record d'endurance.
Parce que Paul Radcliffe en a fait 7 des tours. Puis elle a refait après.
C'est pas la même caisse quoi non plus.
Mais la foulée était pas mal.
La foulée, il y a encore quelques restes, ça commence à faire un moment, mais il y en a encore.
Ça va, tu t'es bien senti sur cette piste de Charletti?
Ouais, je la connais un peu, parce que comme j'ai joué 3 ans là et qu'on faisait les pré-saisons ici. J'ai laissé.
On ne faisait pas comme ça des tours de piste tout le temps.
Si. Ah, on faisait des 1005, je peux dire. Ah ouais, d'accord. J'en ai un très très mauvais souvenir.
Ah oui, voilà, c'était pas ton truc.
Non, j'aimais pas trop ça, mais bon, ça va, j'étais pas le pire, on va dire. Non, mais c'était très sympa, écoute, mais j'ai pas voulu tirer trop. Parce que vu que je me suis pas échauffé, faut quand même le dire.
Alors, ça, c'est bien d'être honnête.
C'est un peu compliqué.
C'est bien d'être honnête, il l'avoue. Effectivement, je t'ai vu arriver 5 minutes avant 17h, je me suis dit, oulala, il est en jean, il est pas prêt. Pas d'échauffement, mais t'as fait le travail. Ouais, on m'a parlé de temps, 1:24, 1:34.
Écoute,
franchement, c'est dans les temps.
Ça va.
T'as pas fait perdre ton équipe. Bon. Donc ça, c'est bien. Pour l'instant, le record est toujours en vue.
Ouais.
Et t'as pas perdu le relais aussi.
Ouais, c'était ça, surtout le piqué. Fallait pas annuler le record en faisant tomber le témoin.
Bon, en tout cas, ça continue évidemment sur cette piste de Charletti que l'on voit évidemment en direct ici sur RMC. On continue effectivement de suivre ce record du monde qui va être battu, on l'espère. En direct sur RMC, 24 heures de course, je vous le rappelle, 144 relayeurs, dont Pierre Rabadan qui va prendre sa tunique maintenant de consultant rugby, oui, membre de la Dream Team Rugby, pour vivre avec nous ce début du
Attention,
match entre
Vannes et Grenoble. On a la Marseillaise d'Omar Hassan. Omar Hassan, ancien joueur du Stade Toulousain d'équipe d'Argentine, qui nous chante la Marseillaise comme avant la finale au top 14. C'est pareil pour la finale Pro D2.
On écoute un peu.
Voilà,
la Marseillaise à Toulouse, Wilfried, pour ce match entre Vannes et Grenoble que l'on va suivre en direct et en intégralité évidemment sur RMC avec Pierre Rabadan. Ça va lancer cette grande soirée top 14, Pierre, puisqu'on va avoir le temps d'en parler, hein,
ah oui,
et de présenter tous les enjeux de cette 26e et dernière journée de la phase régulière en top 14. Un mot avant que le coup d'envoi soit donné sur ce Vannes-Grenoble. C'est un beau destin pour les deux équipes. Évidemment, ce sont deux destins un peu croisés. Et ça serait, quoi qu'il arrive, une belle histoire.
Ouais, deux histoires complètement différentes, des saisons différentes et puis un parcours aussi évidemment différent. Pour Vannes, ils écriraient un petit peu l'histoire, hein, si jamais ils arrivaient à accéder, ouais, directement. Premier club breton qui accéderait en top 14, avec une saison plutôt régulière, en chassé-croisé avec Provence Rugby en tête de la Pro D2. Et puis Grenoble, beaucoup plus compliqué, un début de saison où se mélange le sportif et l'extrasportif, et puis voilà une montée en puissance qui les amène jusque là aujourd'hui. Donc c'est aussi une dynamique extrêmement positive, et c'est un grand club évidemment de l'histoire du rugby français, Grenoble, qui pourrait retrouver aussi le top 14 aujourd'hui. Et il vaut mieux gagner aujourd'hui.
Oui, parce qu'après, on l'a dit, il y a une deuxième chance, mais c'est contre Montpellier. On n'en est pas là, ça sera la semaine prochaine, Wilfried.
Exactement, ce sera la semaine, alors que c'est parti, hein, entre les 21 ont donné le coup d'envoi sur les Grenoblois, et après un dégagement de Sam Davis, l'ouvreur Grenoblois, les 21 ont récupéré le ballon et attaque dans la moitié de terrain avec Omari Kamou qui a percé au milieu, et il va trouver le soutien de ses avants, et on va renverser de la droite vers la gauche. Effectivement, ce sera pas complètement perdu pour le vaincu de ce match, même si Pierre, il faudra se remettre mentalement d'une telle défaite pour aborder Montpellier, qui n'est pas un petit morceau non plus dans le top, avec le ticket du club de top 14 la semaine prochaine. Donc il vaut mieux évidemment monter ce soir entre ces deux clubs, et il y a une touche qui va être récupérée par Vannes à 5 mètres de la ligne des Grenoblois après un coup de pied de dégagement contré. Voilà, c'est le ticket, vaut mieux l'avoir ce soir, même si des clubs de Pro D2 ont gagné l'access match, Pierre, qui est un match très particulier pour le club de top 14 le week-end d'après.
Après, quand on voit la composition d'équipe malgré la saison qu'ils ont fait de Montpellier, on se dit que perdre une finale d'accession et derrière prendre une équipe avec cette expérience, ça sera quand même difficile. Mais bon, c'est la beauté du sport, son incertitude.
Ils ont l'avantage de recevoir quand même. Le club de Pro D2 a l'avantage de jouer à domicile. Ce sera soit à Vannes, soit à Grenoble. Mais c'est vrai que Montpellier partira favori sur le papier. On va suivre quand même cette touche pour Vannes, à 5 mètres de la ligne des Grenoblois. Et le ballon, il est piqué en fond d'alignement. Bien joué de la part des Grenoblois. Il ne faudra pas louper trop d'occasions comme ça dans une finale, effectivement. Alors que Eric Escande, l'ennemi des Grenoblois, va faire jouer ses avants pour un point de fixation. Attention, le contest, c'était pas loin côté Vannetais. Les Grenoblois vont pouvoir se dégager. Cartouche loupée pour les Vannetais et cette touche volée par les Grenoblois. Les Grenoblois qui se dégagent, ils trouvent une touche dans leurs 22 mètres. On va rester dans les 22 des Alpins. Le lancer sera pour les Vannetais. Attention, Pierre aussi, les Vannetais qui avaient un petit peu de pression la semaine dernière, qui ont un peu bégayé leur rugby en première mi-temps. Jean-Noël Spitzer l'a dit, l'entraîneur n'a pas été bon, il a dit carrément. Ils ont bégayé leur rugby en première mi-temps face à Béziers. Tu le sais très bien, là, que, voilà, aborder une finale mentalement aussi, c'est très important.
Ouais, et puis il a fait des choix assez radicaux.
Ouais, 5 changements.
Cinq changements, c'est assez peu. Assez peu courant, généralement on reconduit quand même l'équipe qui gagne sa demi. Il peut y avoir un ou deux changements ponctuels, mais c'est un choix fort. Alors voilà, on verra, on dira que c'était un choix génial si ça gagne, et si c'est pas le cas, ça sera il faudra qu'il s'en explique peut-être. Mais bon voilà, moi je trouve que c'est difficile pour les joueurs qui ne jouent pas, qui ne démarrent pas, parce que peut-être ils ont été contre-performants, mais c'est un choix très fort de l'entraîneur qui montre qu'il a la main sur son groupe et qu'il les manage pour faire la meilleure performance possible.
Ah, il assume, c'est vrai. Encore une attaque un petit peu ratée. On a joué au pied, on s'est débarrassé du ballon côté Maxime Lafage, l'ouvreur de Vannes, et les Grenoblois se sont dégagés. Et c'est Romaric Camus, l'ailier, qui remonte ce ballon. Attention aussi à l'occupation au pied qui sera importante. Ne pas se faire prendre dans son camp pour les Vannetais, mais les Grenoblois sont très en place pour le moment. Pierre, les collisions, on le voit sur les collisions, et on le voit que les Vannetais hésitent pas mal. Hein. Les Grenoblois sont en place.
Ouais, les Grenoblois sont en place et surtout ils sont pas très confiants en conquête déjà. On a vu des touches pas maîtrisées. Et pour l'instant, côté Grenoble, on assure, mais on est quand même dominé. Hein. Depuis le début, c'est plutôt quand même Vannes qui a le ballon.
Ouais. C'est vrai. En tout cas, on joue la quatrième minute, ouais, François, 0-0 entre les deux équipes.
Non, ce que je voulais souligner, c'est évidemment pour tous ceux qui n'ont pas les images, mais tu nous fais vivre ça parfaitement, Wilfried, c'est le monde qu'il y a à Ernest Vallon, et honnêtement, pour une finale de Pro D2, c'est magnifique. Ça fait toujours venir du monde, hein, les finales de Pro D2.
Ils viennent de loin, mais, en plus, hein. les deux équipes viennent de loin.
Mais voilà, en plus, voilà, donc c'est une vraie réussite, je trouve, cette façon de faire, en tout cas en rugby, pour faire monter les équipes, qu'il y ait une finale de Pro D2, et en plus, derrière, il y a une nouvelle possibilité pour le club, avec un nouveau barrage d'accession à jouer la semaine prochaine en cas de défaite aujourd'hui. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une réussite, en tout cas sur le plan du public.
La formule est pas mal, c'est vrai. Les Vannetais ont encore le ballon avec leur capitaine, le troisième ligne, Francisco Gorisen, l'Argentin. On réclame quelque chose sur le ruck. L'arbitre, je ne vous ai pas donné l'arbitre, en compte, c'est M. Barbeau, hein, qui arbitre cette finale avec peut-être l'intervalle tenté par Thibaut Debaez. Bien plaqué, grosse défense des Grenoblois. Ils ont du mal à franchir les dos, peut-être avec Rourou, le demi-mêlée. Et on joue à deux contre avec Romaric Camus qui est passé sur le côté gauche maintenant, qui s'infiltre. Il a le soutien de Rourou, son demi-mêlée qui va renverser avec Lafage. Il faut qu'il s'infiltre un petit peu, qu'il porte le ballon. Les Vannetais avec maintenant Matteo Desjeux. On ouvre à nouveau sur l'extérieur, peut-être possible avec Karaté. Le raffut d'Araté, la Chistera sur l'extérieur pour Bastardi qui avance maintenant. On est à 10 mètres de la ligne. Le temps fort des Vannetais après 5 minutes de jeu, 0-0 entre les deux équipes. À nouveau les avants, le contest au sol, le ballon pour Rourou. Il est sous pression de la défense des Grenoblois, mais ils l'ont conservé. Il faut peut-être qu'ils soient patients là, Pierre, hein, les Vannetais, parce que la défense grenobloise est forte, mais des fois on manquait de soutien côté breton.
Oui, pour l'instant, les Vannetais, ils tiennent le ballon, hein, malgré tout, même si la défense de Grenoble est plutôt en place, mais ils sont quand même dans l'avancée. C'est
la
Fage
s'est mis dans l'axe. La Fage s'est mis dans l'axe, C'est pas mal. Ah, c'est contré. C'est contré par les Grenoblois. Attention sur ce contre, même si là, il y a un en avant Grenoblois. Je me sens, monsieur Marbeau. Pourtant, il était bien amené, ce drop quand même. Le petit coup de pied par au-dessus, la petite chandelle. Non, c'est pas bien senti de la part de Mickaël Rourou, l'ancien Bayonnais. Finalement, on revient à l'en avant Grenoblois. Oh, ça fait 6 minutes de jeu, ça va être tendu. Imagine, il en reste 74, 0-0 entre les deux équipes. Chaque millimètre, c'est une finale, Pierre. Hein. C'est une finale en toute sa splendeur là.
Ouais, et puis il y a du rythme. Hein. On n'a pas vu trop de rounds d'observation qu'on voit parfois dans les premières minutes des finales où il y a beaucoup de jeux au pied, assez mise en place assez tactique, les Vanté, ils veulent quand même imprimer pour l'instant la cadence de cette finale.
C'est vrai. Et on va... pour l'instant, il n'y arrive pas, François, au tableau d'affichage. Enfin, il n'y a que 7 minutes. On est là, 7 bah oui. minutes de jeu. 0-0 entre les deux trucs. Équipes. Mais voilà, il faudrait être pragmatique dans la finale, sur les temps forts, évidemment.
Toujours, on toujours. En finale.
L'efficacité, ça évidemment c'est très très important. Wilfried, on te retrouve bien sûr pour la suite de ce Van Grenoble, donc finale de Pro D2 en direct, en intégralité sur RMC. On parlera de rugby aussi à 18h, donc ne manquez pas ça avec tous nos envoyés spéciaux. Grande soirée rugby sur RMC dès 20h30 avec 7 matchs en direct pour la 26e journée, dernière journée de phase régulière. La Rochelle Racing, Lyon-Toulouse, Stade Français, Toulon, Bayonne-Castres, UBB, Oyonnax, Clermont, Montpellier et Pau-Perpignan. Au programme pour l'instant, Pierre est avec nous, Pierre Rabadan, qui ne va pas faire un relais. Hein, tu laisses ton équipe faire.
Ah, c'est bon, là,
tu ne retournes plus là, sur la piste de Charletti. Ah,
normalement, non.
Tu as tout donné. Ok, très bien.
Sauf si vraiment le match se passe pas très bien. Dans ce cas-là, peut-être qu'entre deux essais, j'irai faire un tour, mais je ne pense pas.
Bon, en tout cas, pour l'instant, ils ont l'air de gérer le truc sans toi. Hein. Tout se passe très très bien. Tu peux être rassuré. On revient bien sûr à Charletti dans un instant. On va parler athlétisme, justement, puisqu'on sera en direct de Rome, où les premières finales des championnats d'Europe d'athlétisme, pour voir où en sont les Français à quelques jours des Jeux Olympiques. Et bien, ça sera avec Aurélien Tirsin dans un instant sur RMC. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
De retour sur RMC dans l'Intégral Sport avec un essai, le premier en finale de Pro D2, Van Grenoble, Wilfried Templier.
Voilà, l'entame était vantaise et ils ont concrétisé, enfin j'ai envie de dire, 12e minute, après une touche récupérée par le capitaine Francisco Gorisen, l'Argentin, une avancée sur un ballon porté. On a été sur les extérieurs, on n'a pas hésité à prendre des risques avec Bastardi qui a percé, on a continué dans l'axe, c'était long la ligne de touche sur le côté droit, on est revenu avec les avants une fois, deux fois, on a fait les choses dans l'ordre côté breton pour ensuite eh bien ouvrir, et puis ben voilà, il n'y avait pas trop de solution de contre deux, mais sur les appuis, le rapide et rappelé Romaric Camou sur un crochet intérieur a été marqué derrière la ligne, le premier essai de ce match, le premier essai Vanté des Bretons. 12e minute, la transformation face au poteau actuellement pour Maxime Lafage, et ça fait 7 à 0 pour le RC Van face au FC Grenoble. Mais Pierre, c'est on ne peut plus logique sur ce début de match des Bretons.
Clairement, après je suis obligé de te reprendre, on dit pas Rabelais, on dit Vélos. Rabelais, c'est plus péjoratif.
C'était pas péjoratif, c'est plus jeune, ça n'était Vélos. Pas dans ma bouche. Vélos, on va dire, ouais, allez.
Non, mais un petit Wilfried aussi est Vélos, appuis.
Je suis Rabelais. Sur les appuis, il n'est pas facile à prendre, Romaric Camou.
Ouais,
sur un crochet intérieur.
Il me rappelle Marc-André un peu, tu vois, pour
exactement.
Pour les spécialistes.
Marc-André, il baissait la tête sous le bras des plaqueurs.
Je sais pas s'il fait, mais... Sans doute. Mais il est très bon depuis le début du match, hein. D'ailleurs, Romaric Camou, et c'est une c'est juste vrai. Récompense. Et on le disait, hein, la défense de Grenoble qui a très bien résisté, mais c'est Van qui a impulsé tout, hein, depuis le début du match. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il soit devant au score, avec un score de 7-0, je crois. Et ils sont à la hauteur de l'entame et de l'intensité qu'ils ont mis depuis le début. Donc, très, très bonne entame des Bretons.
7-0 pour Van face à Grenoble. Bien sûr, on suit cette finale de Pro D2 de très près. Et c'est une journée rugby, vous l'avez compris. Dans un instant, avec Pierre, on parlera notamment de la grande soirée Top 14 à vivre en direct sur RMC. On est en direct de Charletti actuellement pour vivre ce record du monde qui doit être homologué à partir de demain. 350 km à parcourir, 144 relayeurs. On en est où, Pierre Thévenet, qui se trouve pas très loin de cette piste de Charletti?
Eh bien, on a passé les 60 km, 61 km parcourus. Et l'information importante, c'est que le bâton de relais n'est toujours pas tombé.
Bah oui.
C'est ça le plus important. Il faut absolument ne pas le faire tomber, sinon le record est terminé. 61 km parcourus, je peux vous dire que ça va très très vite. On est en avance largement sur les temps de passage. Tout le monde avance très rapidement. Il faut faire le tour en moins d'une minute et 38 secondes pour être dans les temps du record. Ah. Et là, Sébastien, qui est à son quatrième tour, il est à 1,19 de moyenne. Donc quasiment tout le monde explose les temps de passage. On est bien. Gardons le témoin dans les mains jusqu'au bout. Et ça devrait très bien se passer. 153 tours réalisés. Et il en reste 722 à parcourir d'ici demain 14h.
L'équipe de Pierre Rabadan, elle performe. Ah, vous l'avez entendu, c'est le signal, l'alerte, le moment en tout cas pour vous inscrire. C'est votre dernière chance pour tenter de remporter la totale du coffre Euro 2024. Un vidéoprojecteur Samsung, son écran de projection, un barbecue électrique et fumoir Ninja, un fauteuil FFF, une machine à glaçons et la mascotte de l'Euro 2024. Pour jouer, c'est maintenant 5 minutes. Pour jouer, il faut envoyer coffre au 7-32-16. Envoyez coffre au 7-32-16. 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous. On va retrouver Aurélien Tirsin qui est sur une autre piste d'athlétisme. Enfin, il n'est pas sur la piste, et heureusement d'ailleurs, mais il n'est pas très loin de la piste à Rome, puisque ce sont les championnats d'Europe. Salut Aurélien.
Salut François, salut à tous.
Ah oui, c'est l'occasion pour certains athlètes tricolores à 48 jours des Jeux Olympiques de prendre leur marque avant donc ces Jeux Olympiques, notamment des Français qui ce soir ont l'occasion de remporter les premières médailles, et notamment le 100 mètres haies de Sirena Samba Mayela, c'est ça ?
Oui, on l'attend avec impatience celui-là, parce que Sirena Samba Mayela, on savait qu'elle était très forte en salle. Elle est championne du monde du 60 mètres haies en 2022 et elle est vice-championne du monde également du 60 mètres haies cette année. Malheureusement, ça n'avait pas abouti sur le 100 mètres haies encore en plein air, mais depuis, elle est partie s'entraîner aux États-Unis et ça marche très fort. Elle a battu le record de France de Monique Evangépé qui datait d'une trentaine d'années. Elle a réussi un chrono en 12,52 et s'est imposée dans des meetings de Diamond League contre les toutes meilleures mondiales. Alors il y a la Suissesse Dita Gikambuji qui court encore plus vite en 12,49 ici à Rome. C'est son record personnel, en tout cas son season best, son meilleur chrono de la saison, Dita Gikambuji. Mais Sirena Samba Mayela, elle fait une année énormissime. Elle nous a prévenu, le chrono va encore descendre cette année. On l'écoute, Sirena Samba Mayela, sur sa grosse année passée.
En fait, je suis très contente de ce que je fais, mais j'essaie vraiment de garder la tête froide, parce que je sais que le bout, justement, c'est les jeux. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plein de choses qui se passent en ce moment, sur le chemin, notamment avec les médailles, comme ma médaille de cet hiver, les records. Ça faisait partie du plan pour moi. Je savais qu'il fallait que je traverse par là. Et le but, c'est de rester concentré sur les jeux, et pas se dire « Ok, c'est bon, j'y suis arrivé en fait ».
Elle est moins timide sur la piste, hein, François, t'inquiète pas, la voix est encore un peu fluette, mais elle va à 100 à l'heure sur la piste. Sirena Samba Mayela, elle est en demi-finale à 20h20, et la finale, ce sera dans la foulée, dans la soirée, mais il y a de très très fortes chances de médaille pour Sirena Samba Mayela.
Ah bah on le souhaite, effectivement, pour ces sprinteurs français, et c'est vrai, on sait à quel point c'est difficile, notamment pour les garçons. Alors on sait que le 110 mètres haies est souvent pourvoyeur de médailles. Là, il y a beaucoup beaucoup de forfaits à Rome pour ces championnats d'Europe. Et du coup, ça laisse la place à des petites surprises, pourquoi pas.
Ouais, exactement, c'est un inconnu du grand public, Raphaël Mohamed, qui est la tête d'affiche. Il a 26 ans déjà, il vient de l'île de la Réunion, et c'est la tête d'affiche parce que, alors malheureusement, son ancien partenaire d'entraînement jusqu'au Maté a subi une rupture du tendon d'Achille, donc c'était un vrai espoir de médaille aux Jeux Olympiques. Lui, il est forfait, et derrière il y a des petites gênes musculaires par-ci par-là pour Sacha Zoya, pour Willem Belossian, pour Pascal Martineau-Lagarde, appendicite pour Aurel Manga. Et donc Raphaël Mohamed, qui était 6e sur la ligne de départ, et se retrouve propulsé leader du 110 mètres haies, mais avec un chrono de 13,27 cette année. Il est tout proche des minima olympiques, et il se retrouve dans une position de potentiel finaliste, voire médaillé ici au championnat d'Europe. C'est assez incroyable, et écoutez la réaction de Raphaël Mohamed, parce qu'il n'y croyait pas beaucoup à cette année merveilleuse.
Même cet hiver, si on m'aurait dit « Ouais Raphaël, tu peux faire les JO », j'aurais pas cru. Et aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus des JO. Du coup, je suis très content. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, je suis la tête d'affiche française sur le 110 mètres haies. Mais j'ai travaillé pour, et je mérite d'être là. Et du coup, le jour de la compète, je vais tout faire. Enfin, prendre plaisir pour commencer et tout faire pour faire la plus belle performance.
Et voilà. Il va nous montrer ça, Raphaël Mohamed. François, pareil, demi-finale juste après Sirena Samba Mayela. Finale, à noter simplement, la finale aussi du disque avec Mélina Robert-Michon, la finale du 5000 mètres avec notamment Bastien Augusto. Il y a le 20 km marche, et également, alors peut-être tu vas m'en reparler, mais du 100 mètres, la ligne droite avec la monte Marcel Jacobs, évidemment le champion olympique italien, et aussi le français Pablo Matteo.
Alors on va en parler effectivement de ce 100 mètres, parce que c'est toujours évidemment l'épreuve reine sur les pistes d'athlétisme. Mais un mot quand même sur les qualifiés de ce matin, parce que il y a des bonnes nouvelles avant les Jeux Olympiques. Il faut le signaler pour les Français.
Oui, on n'était pas forcément habitués ces dernières années, mais il y a très très peu de mauvaises nouvelles ce matin. Quasi 100% de qualifiés, alors soit en demi-finale, soit en finale, en fonction des disciplines. C'est Marie-Julie Bonin, malheureusement pour elle, la perchiste, qui est la seule éliminée en qualification. Sinon, les autres, Dehénin et Chapelle, qualifiés en finale de la perche. 2 sur 2 au marteau, donc deux Français en finale, Yann Chaussinant et Quentin Bigot. Les Français du 400 mètres sont B et Andan chez les garçons en finale, Amandine Brossier en demi-finale. Et puis sur le steep, après Alice Finot hier qualifiée pour la finale chez les femmes, il y a un 3 sur 3 pour les hommes avec Alexis Miellet, Gilali Bedrani et Nicolas Daru. Et pourquoi pas rêver de 1 voire 2 Français sur le podium européen du 3000 mètres steep.
On l'espère évidemment, Aurélien. En tout cas, c'est pas mal de bonnes nouvelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront médaillés, mais c'est déjà très très bien, vu comme on a parlé de l'athlétisme français ces derniers mois avant les Jeux Olympiques et à quel point on s'inquiète. Bah, justement, on va parler un peu du 100 mètres. Alors c'est vrai que là, les Français sont loin, mais c'est l'occasion de voir où justement en est Marcel Jacobs, champion olympique en titre. Il avait été champion olympique à Tokyo, l'Italien, et on va le voir sur la piste tout à l'heure.
Oui, on va le voir d'abord avec les demi-finales, évidemment. 10-0-3 au mieux cette année. Alors le 100 mètres en 2024, là on est très très loin des grandes années Usain Bolt, Justin Gatlin, etc. Le meilleur chrono de la saison, c'est 9-82, c'est le Jamaïcain Oblique Sévillé. Donc c'est pas une année terrible. Le Français Pablo Matteo est qualifié donc en demi-finale avec un chrono de 10-18 et il a fait le meilleur chrono des séries. Donc tu vois François, ça va vraiment pas vite. La montre Marcel Jacobs, il n'est jamais revenu à son niveau de 2021 quand il a été champion olympique à Tokyo. Il avait battu le record d'Europe de notre Jimmy Vico national. Il avait réalisé un chrono de 9-80 en finale. D'ailleurs le 4x100 italien, le relais, lui avait permis d'obtenir une deuxième médaille d'or. Mais depuis, c'est vrai que c'est plus compliqué pour Jacobs. Donc 10-0-3, je te l'ai dit, son meilleur chrono de l'année. Il a fait 10-23 il y a quelques semaines désormais, la montre Marcel Jacobs. Donc il n'est pas en grande forme, il veut absolument passer sous la barre des 10 secondes lors des championnats d'Europe. Il est quand même champion d'Europe en titre, hein. Il l'avait été à Munich en 2022, mais ça avait couru en 9-95 et depuis il n'a plus passé cette fameuse barre mythique et 10 secondes. Donc on va voir l'état de forme de la montre Marcel Jacobs à domicile ici à Rome. Et face à lui, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a le Britannique Oudja éventuellement qui peut passer sous la ligne des 10 secondes. Et il y aura le Français Pablo Matteo qui peut se rapprocher des 10-10-05. Alors ça paraît pas rapide, mais dans ces championnats d'Europe, ça peut suffire à se rapprocher du podium.
Ah bah si, pour nous c'est rapide avec Pierre Rabadan, 10-05.
Non, pas du tout. Oui, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais je suis pas du tout solidaire.
Je sais pas, je t'ai vu sur la piste tout à l'heure, Charity, je me dis.
C'est pas du sprint,
c'est vrai.
La différence entre le demi-fond et le sprint.
Non. Mais... je sais, j'ai pas le physique, on est d'accord, mais j'arrive à voir la différence à peu près. Merci Aurélien, notre sprinteur de la rédaction.
Oui. Pour Oriana Lazraklask, que j'ai oublié et j'en suis désolé, elle est pour l'instant troisième de l'heptathlon, donc elle aussi est en lice pour une médaille. Voilà, elle fait vraiment fait un parcours exceptionnel, donc évidemment. Voilà, peut-être une autre médaille aussi pour la France ce soir.
Alors dès qu'il y a des médailles, dès qu'il se passe quelque chose, évidemment Aurélien, tu nous rappelles et tu nous dis ce qui se passe en direct de Rome pour ces championnats d'Europe d'athlétisme, évidemment très important avant les Jeux Olympiques. Grenoble a réduit un petit peu l'écart avec Van lors de la finale de Pro D2, Wilfried.
Effectivement, Van avait ouvert le score par un essai de Romaric Camou transformé par Maxime Lafage à la 11e minute, 16-0. Derrière, après une touche, on est venu au milieu du terrain faire un point de fixation côté grenoblois dans le camp des Bretons. Il y a eu un plaquage sans ballon, pénalité du buteur grenoblois, du gallois Sam Davis, 7-3 à la 16e minute. Mais là, surtout là, à la 19e, Pierre, je ne sais pas si tu as eu un œil sur le ballon porté des grenoblois et ce qui s'est passé pour le talonneur, il me semble, Barnabé Massa, qui avait un boulevard pour aller marquer. Il allait marquer, hein. Je pense qu'il a marqué, mais les Sueurs l'ont décidé autrement. Il a fait en avant dans l'embut, en fait. Alors peut-être sur le plaquage vanté. On pensait qu'il avait, il avait essayé de tout faire, hein. Mais le plaquage vanté était
C'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater jamais, mais encore plus en finale.
Et effectivement.
Si Grenoble échoue pas loin, il va se repasser un moment. Dans la tête, mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Il était dans l'embut. Il a lâché le ballon, quoi. Donc peut-être au contact du plaquage, mais
heureusement qu'on l'a pas pris pour le relais. Hein, parce que le record RMC, là, c'était foutu.
Ah, il aurait pu le faire le planter. Là,
et comme tu dis, ce sera attention à Grenoble de pas regretter cette énorme et encore on n'arrive pas à trouver un mot énorme occasion pour Van. Du coup, 22e minute, c'est toujours Van qui est devant, 7-3, mais ça s'est rééquilibré dans le jeu entre les deux équipes.
On revient bien sûr vers toi, Wilfried, pour suivre ce Van Grenoble, finale de Pro D2. Le vainqueur ira en top 14. On va parler de top 14 dans un instant avec Pierre Rabadan, membre de la Dream Team Rugby RMC, avec tous nos envoyés spéciaux pour vous présenter cette grande soirée rugby à vivre en direct dès 20h30 avec Thibaut Géangrand, avec Yann Delegue, avec Julien Brugnot de la Dream Team Rugby, pour vivre donc ces 7 matchs en direct de l'enjeu quasiment partout. On vous explique tout ça dans un instant ici en direct de Charletti. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
On est de retour dans l'Intégral Sport sur RMC en direct de Charletti. Vous écoutez RMC, vous avez raison. Après-midi exceptionnel avec Pierre Rabadan qui est toujours là, qui vient de participer à ce record RMC, une course de relais mix pendant 24 heures, course qui a débuté depuis 14 heures. Il faut parcourir 350 km en 24 heures pour que le record soit homologué. Pierre Thévenet est au bord de cette piste de Charletti. Pierre, tu vas nous faire le point sur la course.
On est parti depuis 4h01 exactement, 66 km parcourus. On est toujours en avance sur les bases de ce record du monde. Et là, en piste actuellement, Anaïs Kemener, double championne de France de marathon en 2016 et en 2022. Record sur le marathon lors du marathon de Séville 2023. Elle est en piste, elle va mener son équipe, l'équipe Kemener, entre donc 18h et 19h. Elle est partie évidemment très forte, foulée, très dynamique pour Anaïs Kemener qui a parcouru ses deux premiers tours à quasiment 19 km/h de moyenne. Elle est en train de terminer son troisième tour. 66 km parcourus donc. Il va rester 710 tours à faire d'ici demain 14h.
Non, mais on dirait qu'elle est très tranquille,
ouais,
tu sais,
très
Anaïs.
Facile.
Alors elle est passée devant le studio RMC. Elle a même fait un petit sourire, un petit coucou, etc. Enfin,
elle était beaucoup plus stressée à l'idée de faire tomber le bâton plutôt que de réaliser les chronos. Pour
quand
être honnête, elle a mimé
la foulée d'Anaïs et de Pierre Rabadan. Je peux dire que c'est bizarre.
C'est dur.
Tu peux pas comparer en fait. C'est pas possible.
Il y a le même côté cheveux au vent. Ça, c'est assez similaire.
Oui, plus ou moins. Oui.
Elle a l'air de moins souffrir. Hein,
ah oui, là, ça a l'air tranquille, hein, vraiment.
Ouais, grand sourire sur la ligne d'arrivée à la fin de son troisième tour. Elle va en enchaîner un quatrième tout de suite. 4h02 de course donc. Et à nouveau 18 km/h de moyenne pour Anaïs Kemener.
Super, on espère qu'elle viendra nous voir. Normalement, elle viendra nous voir dans le studio RMC juste à côté de cette piste de Charletti. Anaïs Kemener qui a une histoire incroyable, qui ne fera pas les Jeux Olympiques parce qu'elle n'a pas fait les minima, mais qui a battu record sur record et qui viendra sans doute nous voir après avoir fait plusieurs tours de piste. Justement, on va retourner au rugby avant de présenter la grande soirée rugby sur RMC dès 20h30, puisqu'en ce moment on suit Vannes face à Grenoble. C'est la finale de Pro D2. L'une des deux équipes ira tout à l'heure en top 14. On en est où, Wilfried? C'est toujours dominé par Vannes, hein, ce match.
Celle qui sera championne de France, qui gagnera ce match, championne de Pro D2, effectivement, et en top 14. C'est toujours Vannes qui est devant. Le score n'a pas bougé, 29e minute, 7-3. En faveur de Vannes, essai de Romaric Camou transformé par Lafarge en face, une pénalité de Davis, mais beaucoup de déchets dans ce match, beaucoup d'en avant, beaucoup de ballons lâchés, et à l'instant à l'image des Vanté qui avait récupéré une pénalité sur une très forte mêlée, ils ont été à 5 mètres de la ligne des Grenoblois, mais ils se sont fait piquer le ballon comme en début de match, et là les Grenoblois sont dégagés et nouvelle touche loupée par Vannes. Pierre, je trouve qu'il y a beaucoup de fébrilité des deux côtés.
Ouais,
en fait.
Pas mal de déchets en conquête, hein, notamment sur les phases de touche. On a vu des bons contres, hein, aussi, notamment sur la touche à 5 mètres en fond de touche, un bloc grenoblois. Mais ça peut se comprendre, hein, Wilfried.
L'enjeu.
Finale, deux équipes qui sont peut-être moins habituées. En tout cas, les joueurs, Grenoble en a connu quelques-unes, mais c'était pour les plus anciens d'entre nous.
Ans, on en fait deux. Ouais. Ouais, Vannes, c'est la première, ouais.
Vannes, voilà, c'est la première, et puis c'est la première fois que le club a l'occasion d'accéder directement au top 14. Donc tu peux comprendre la fébrilité, mais elle est plus tactique que je trouve que technique pour les joueurs. On sent que voilà, collectivement, on n'a pas encore digéré totalement l'appréhension de ce match-là. Mais encore une touche perdue pour les Vanté.
Troisième touche perdue pour les Vanté, ouais, au milieu du terrain. Ils ne vont pas pouvoir continuer longtemps comme ça, sans en subir les conséquences certainement des Grenoblois. Alors, on le répète, meilleure attaque de Pro D2. Alors que là, les Grenoblois, on a fait une passe de trop parce qu'on a voulu faire une passe en plus. C'était le trois quarts centre argentin, Escoura, qui a passé les bras, mais son coéquipier n'était pas au soutien. Et les Vanté ont joué au pied. pied. Les Grenoblois jouent au pied aussi. On se retrouve avec Maxime Lafage, l'ouvreur, qui est contré sur ses 40 mètres. Voilà, il récupère quand même le ballon. C'est poussif un peu pour l'instant entre les deux équipes. Hein. Celui qui va faire la différence, franchement, dans ce match, sera peut-être décisif parce que les deux équipes ont du mal à totalement se libérer. Les passes sont au cordeau, on le voit. Et Araté derrière, Alex Araté, qui avait reçu une passe au cordeau, très difficile de la part de Maxime Lafage. Et ben il tape directement en touche. Voilà l'image, Pierre, de cette première demi-heure de Pro D2, 7-3 pour Vannes, mais les deux équipes en souffrance.
Ouais, du déchet.
Bah, pas beaucoup de déchets techniques, effectivement, mais voilà, des Grenoblois qui se sont quand même remis dans le match, hein, parce qu'on rappelle qu'en vraiment, en début de match, ils faisaient que défendre.
Ouais.
Là, ils sont quand même mieux revenus, notamment en retrouvant un peu une conquête. Et en perturbant les Vannetais.
On rappelle qu'ils ont loupé un essai tout fait, hein, sur un ballon porté, et que le talonneur Barlamé Bassa a fait un avant dans l'embut.
Il faut peut-être un petit déclic, quoi. Peut-être.
Ouais, mais je trouve que les Vannetais sont. Voilà, n'ont pas trop d'idées offensives, un petit peu, Pierre. J'ai trouvé un petit peu poussif quand même. Ils ont beaucoup de ballons.
Ils veulent peut-être pas prendre trop de risques. Tu sais aussi, Wilfried, en finale, tu veux. Ouais. Tu veux
on
pas te faire intercepter,
si elle est pas belle,
tu veux pas, voilà.
C'est pas grave.
Pour la on a bien compris.
Il faut gagner, il faut voilà, gagner.
On
c'est
a
tout.
Bien compris.
Mais bon, moi je pense que peut-être s'il y a un essai là avant la fin de la première mi-temps, ça peut nous donner une deuxième mi-temps un peu plus ouverte, parce que c'est vrai que pour l'instant on sent le poids des finales.
Ouais. 32e minute, 7-3, ouais, pour Vannes.
Et on suit ça bien sûr de près ce soir. Grande soirée rugby, je vous le disais, sur RMC dès 20h30. Les matchs à 21h05 avec 7 matchs en direct pour la 26e journée. Dernière journée de la phase régulière. La Rochelle Racing, Lyon-Toulouse, Stade Français Toulon, Bayonne-Castres, UBB Oyonnax, Clermont-Montpellier, Pau-Perpignan. Il y a de l'enjeu pour les places de demi-finalistes et 4 clubs en lice pour les 2 places de barragistes. On va faire le point sur tous les enjeux avec Pierre Rabadan et on va commencer par ce choc entre le 2e, le Stade Français, et Toulon, le 3e. C'est Winnie Claret qui va commenter la rencontre, qui est avec nous. Salut Winnie.
Salut tout le monde, salut Pierre, salut François.
Salut Winnie.
Alors pour l'instant, le Stade Français est 2e, 3 points d'avance sur Toulon, donc c'est très clair, c'est la 2e place qui se joue dans ce match, hein, Winnie.
Bah oui, alors si le Stade Français gagne avec ou sans bonus, et même s'il concède le match nul, il finira 2e de la saison régulière et donc s'évitera ce fameux barrage à domicile. Au pire, en cas de défaite, Paris chutera la 3e place et recevra le 6e en barrage à Jambouin. On s'en souvient, hein, Pierre, le 6e en barrage, c'est pas de bon augure, parce que l'année dernière, ils en ont joué un de barrage à Jambouin, c'était face au Racing, et on a vu les Racingmen filer à Saint-Sébastien la semaine de suite suivante.
Absolument.
Donc évidemment qu'ils espèrent s'épargner ce match de barrage. Et puis pour Toulon, bah, une victoire avec ou sans bonus, là encore, lui donnerait le ticket direct en demi-finale, que le RCT donc chiperait à Paris. Si les Toulonnais s'inclinent ou s'ils concèdent le nul, ils seront à la portée de Bordeaux et peuvent même terminer la 4e, donc au pire recevoir un barrage, au pire recevoir le barrage. Donc c'est là que ça joue, François, Pierre. C'est soit un ticket direct en demi-finale, évidemment que les deux sont partis pour ça, soit ben, voilà, de se faire un match en plus, le barrage à domicile.
Ouais, t'as raison, Winnie, pour le Stade Français, l'équation, elle est assez simple. En fait, t'as un quart de finale à domicile.
Oui, c'est ça.
Si
c'est
tu
ça.
Gagnes à domicile, t'es sûr d'être direct en demi.
Ouais.
Il y a un autre petit enjeu pour Toulon, c'est que si tu finis 3e, s'ils peuvent finir 3e ou 4e, je crois,
c'est ça.
T'as quand même un jour de plus de récup. Par rapport à ton barrage à domicile, si tu finis 4e, tu joues le lendemain.
C'est
et par rapport à ta demi-finale. Et pour être allé à l'hôtel des Toulonnais tout à l'heure voir quelques anciens collègues, je pense que...
Vas-y, dis-nous dans quel état d'esprit ils sont.
Bah, ils vont essayer de gagner. Ils n'ont pas pris de risque avec certains joueurs qui étaient un peu limites pour ce match-là. Mais effectivement, leur objectif, c'est quand même de viser, s'ils ne sont pas deuxième, absolument la troisième place.
Ouais, non, mais François, je pense qu'on va en parler. Hein, mais c'est vrai, Pierre, ils ont tout à gagner, en fait, les Toulonnais. Eux, ils viennent en se disant qu'ils ont tout à gagner après une saison compliquée. Ils viennent et ils ont cette chance, quelque part, de pouvoir encore gratter un ticket direct en demi-finale.
Oui, parce que la dynamique est favorable à Toulon, hein, même si c'est le Stade français qui est devant en classement.
Bah ouais, donc ils ont traversé le désert cet hiver, les Toulonnais. 4 défaites en 5 rencontres pendant les doublons destination. Le vestiaire a bien été secoué aussi par une polémique qui a mis en rage Pierre Mignoni, le coach, quand nos confrères de l'équipe ont divulgué que certains joueurs fumaient au club. Justement, l'entraîneur s'en est pris aux journalistes qui avaient écrit ça en pleine conférence de presse. C'était une scène assez lunaire. Mais derrière, on a senti que les rouges et noirs s'étaient resserrés. Pierre Mignoni, en fait, il a un peu joué à la Marc Lièvremont, Pierre, en 2011, les Bleus seuls contre tous en Nouvelle-Zélande. Derrière, ça a marché, hein, de se resserrer, puisque après les Six Nations, il y a eu 7 matchs, 6 victoires pour ces 7 dernières rencontres. et les Toulonnais qui viennent donc pour gagner à Jeanbrun. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat qui va affronter la deuxième défense Paris. Bref, ça promet autant sur le terrain qu'en termes d'enjeux.
Ça, voilà, ça aide de s'en prendre aux journalistes.
Hein. Parfois, il faut trouver les déclics. Hein,
voilà, faut trouver les demi.
On conseille pas. Enfin, nous, de notre point de vue, on conseille pas.
Non, nous, on trouve pas ça super.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lancer des bonbons à la Harry Nordoki sur les journalistes en 2011, ou bien s'en prendre comme Pierre Mignoni aux journalistes, quelque part, il y a un effet derrière. On ne sait pas trop ce que c'est. Un électrochoc.
Qui a fonctionné pour
et bah, si on est là pour ça, pourquoi pas. Hein.
Voilà, on va dire qu'on est important, nous, les journalistes.
C'est le rôle majeur.
Les aider.
Ah, d'accord, Pierre. C'est noté.
En revanche, pour le Stade français qui a longtemps été premier, honnêtement, ça serait quand même, alors on ne va pas dire un échec, hein, mais ça serait une grosse, grosse déception de ne pas rallier les demi-finales directement.
Mais clairement, après, ils ont leur destin en main. Ils jouent à un quart de finale qui ne porte pas son nom à domicile. Si tu veux passer par un match de barrage, tu dois gagner ce soir à domicile contre Toulon. Donc si tu as des prétentions dans ces phases finales, il faut que tu sois capable de faire ça. Sinon, après, tu te mets dans un parcours beaucoup plus sinueux et compliqué. Donc ils sont dans une dynamique beaucoup moins bonne, mais en même temps, tu as les cartes en main. Et au mieux, t'as trois matchs à jouer.
Le long paradoxe de cette saison qu'on a souvent souligné sur RMC, c'est que voilà, le Stade français, pendant trois mois, était leader de ce top 14, alors qu'on ne comprenait pas bien comment c'était possible en voyant le jeu proposé par le Stade français, l'une des pires attaques du championnat. Mais malgré ça, et ben oui, entre la, il me semble que c'était entre la 14e journée et la 22e, donc entre début février et fin avril, et ben ils étaient leaders avant de se faire griller la place par Toulouse. Mais voilà, Karim Ghezal, il nous disait aussi cette semaine que si en début de saison on lui avait dit qu'il prenait le Stade français pour que trois journées avant la fin il soit assuré d'être qualifié dans le top 6, pour que deux journées avant la fin il soit assuré de jouer au pire un barrage à domicile, et ben il aurait signé tout de suite, et donc il prend évidemment, c'est ce qu'ils nous disaient les joueurs, hein, s'il ne se qualifie pas directement en demi-finale, c'est que peut-être qu'il ne le mérite pas. Donc l'heure de vérité, ce sera 21h05 ce soir dans un stade Jeanbrun. C'est assez rare pour le souligner, à guichet fermé. Ce soir, on est à près de 20 000 spectateurs.
Maintenant.
Oui, Pierre, cette saison, on a augmenté la moyenne, d'accord, mieux, mais avant mieux. Cette dernière ligne vrai, droite de la saison, on était quand même loin des 20 000.
C'est vrai, mais ça va être une très belle affiche. Et il est pragmatique, Karim Ghezal, tu l'as dit. Et en même temps, ça a été une situation parfois difficile aussi pour le Stade français cette année, mais au final, en jouant pas très bien en attaque, tu l'as souligné, mais en ayant une très grosse défense et une très grosse conquête, oui. Et ben ils sont là où ils sont et ils ont leur destin en main. Il a raison de dire qu'il aurait signé. Je pense que tous les gens au club auraient signé.
Merci beaucoup, Winnie. Stade français Toulon, 21h05, lors de cette grande soirée RMC rugby. On va justement aller.
Il y a aussi les 20 ans du titre de 2004 ce soir à Jeanbrun pour faire.
Et le trophée Christophe Dominici. Enfin, bref, il y en a plein.
Wilfried, ça chauffe là, Van Grenoble, finale de Pro
D2. Parce que les Grenoblois ont joué une pénalité de leur 22 mètres et ils sont maintenant dans les 22 des Bretons. 7-3 toujours pour Van. On est à 2 minutes 30 de la mi-temps. Pierre parlait justement s'il y avait un essai juste avant la mi-temps pour électriser un petit peu ce match, le comtesse Van T. Non, il n'est pas bon. Enfin, ils ont pas réussi à récupérer le ballon. La bonne percussion maintenant de Mouaroua, le troisième innocent fidjien. On est face au poteau à 10 mètres de la ligne. Ça chauffe et les Grenoblois. Grenoblois enchaîne les temps de jeu avec Barlabé Bassa maintenant, le talonneur avec Eric Escand, l'ancienne une mêlée de Montpellier de Toulon qui est en train d'organiser ses avants. Il leur fait signe, il faut repartir au ras. Ah, ils ont fait un petit en avant, il me semble. Aïe, ils ont fait un petit en avant. Non, il l'a pas sifflé. Alors, je sais pas, il dit que c'est en arrière. Waouh, il faudra revoir ça.
Il a hésité, il s'est sifflé à la bouche.
Effectivement, et les avants repartent, les avants grenoblois qui repartent. Franchement, il y aura peut-être vidéo là-dessus, hein, parce que le grenoblois qui est parti a un peu lâché le ballon. On enchaîne à nouveau encore avec Mouaroua, le troisième in-centre. La défense de Van est en difficulté. La bonne montée d'Alex a raté le trois quarts Van T, mais les grenoblois conservent le ballon avec Escand. On était maintenant sur la droite du terrain. On repart vers la gauche. On multiplie les temps de jeu, mais la défense de Van pour l'instant est solide. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir? Remise intérieure. Et en avant, ballon récupéré par les Bretons. Là, en avant, il est signé du pilier droit, Régis Montagne. Et finalement, on va donner mêlée. Oui, en avant, grenoblois et les supporters bretons qui exultent, qui sortent les drapeaux. Évidemment, ils ont eu chaud. Il reste une minute à jouer dans cette première période. Toujours 7-3 pour Van. Mais que c'est tendu. Et que les occasions se multiplient de chaque côté, Pierre. Mais on n'arrive pas à, de chaque côté, j'ai envie de dire, vraiment à concrétiser les temps forts.
Ouais, tu l'as très bien décrit, et ils vont vraiment se mordre les doigts hein, quand même, les Grenoblois. À chaque fois, ils sont quand même à deux doigts de marquer, encore là cette fois. Mais pour l'instant, ça ne score pas, donc bon, il n'y a pas un écart très inquiétant pour l'instant. Mais les occasions dans ces matchs-là, il faut les concrétiser. Donc c'est un peu surprenant. Moi, ce qui me surprend, je ne sais pas si toi, tu as ce sentiment du stade que tu connais bien, Ernest Vallon. Je trouve qu'ils jouent un peu arrêtés, notamment les Grenoblois. Je sais pas.
Il fait lourd. Hein.
Il fait lourd,
c'est pas loin de 30 degrés.
Ils prennent le ballon arrêté, je trouve, en fait. Ouais. Et du coup, ils subissent un peu la défense.
Ils sont capables de faire mieux en plus. Hein. C'est une équipe qui marque beaucoup d'essais. Je pense pour les avoir vus un peu cette année, dans la transformation du jeu, dans les temps de jeu. C'est une équipe qui produit beaucoup de jeux normalement, les Grenoblois. Et c'est vrai que ouais, là, ils restent un peu dans le petit périmètre. Mais voilà, est-ce qu'on a envie de prendre des risques d'aller sur les extérieurs dans cette finale? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure.
Je trouve qu'ils prennent le ballon en même temps que la défense sur le dos.
Après, c'est la meilleure défense de Pro D2, Van aussi. Ouais, c'est la meilleure défense. Que 50 essais encaissés, c'est la meilleure défense au niveau des essais aussi. Et ça s'est vu dernièrement. On va finir sur une mêlée à 5 mètres de la ligne Van. Introduction pour les Bretons. On va arriver vous allez entendre certainement la sirène. Voilà, dans le stade Ernest Vallon, ce sera la dernière action de cette première période. Qui n'aura pas enthousiasmé complètement les foules, mais on le sent, c'est tendu, c'est une finale, c'est un ticket pour le top 14 entre ces deux équipes. Pour l'instant, 7 pour Van, 3 pour Grenoble, un essai de Romaric Camus transformé par Maxime Lafage pour les Vannetais à la 11e minute. Réduction de l'écart de Sam Davis, l'ouvreur gallois de l'équipe de Grenoble à la 16e minute. Et on n'a pas vu plus de choses que ça. On voit Jean-Noël Spitzer un petit peu avec sa casquette, l'emblématique entraîneur de Van qui hoche un peu la tête, là, qui ne doit pas être complètement content de son équipe qui pouvait faire mieux, mais qui est devant. 7-3, c'est un peu miraculeux vu les occasions grenobloises gâchées. On suit juste, allez, cette mêlée. Il a fallu en rejouer une autre. Introduction de Mickaël Rouroux. La mêlée, Vannetais qui avance, ça tourne, attention, la sortie est un peu contestée, mais pénalité pour Van. Alors Pierre, est-ce qu'ils vont dégager ce ballon en ballon mort ou est-ce qu'ils vont aller chercher une touche pour avoir une pénalité plus...
Qu'ils vont taper dans le ballon et taper en touche ou en arrière. Non,
ouais, c'est ça. Ouais. Maxime Lafage le fait, il va dégager dans la tribune où il y a ses supporters. Ouais. Et voici la mi-temps. Donc dans cette finale de Pro D2, 7-3 pour Van. Match fermé pour le moment. Un seul essai, Camus pour les Bretons. Rien n'est fait encore pour le savoir. Qui va rejoindre dès ce soir le top 14?
Et voilà, la mi-temps, 7-3. Pierre Rabadan, évidemment, on a vu... Les Vannetais dominaient la première partie, mais rien n'est fait.
Oui, mais les Grenoblois qui sont revenus dans le match, notamment en perturbant Van en conquête et en leur faisant perdre un peu l'ascendant qu'ils avaient imprimé en début de match. Donc même s'ils ont raté deux occasions énormes, les Grenoblois, je pense qu'ils vont revenir au vestiaire plutôt confiants pour la seconde période. Et c'est plutôt la dynamique est plutôt grenobloise dans cette fin de première période.
Et bien sûr, on te retrouve, Wilfried, pour la deuxième période de ce Van Grenoble, finale de Pro D2 que l'on suit en direct sur RMC. On va retrouver Pierre Thévenet qui est près de la piste de Charletti, puisque je vous rappelle que c'est une journée exceptionnelle sur RMC, puisque nous avons un record du monde à faire tomber, à homologuer plus exactement, 350 km à faire en 24 heures. Où on en est, Pierre?
Bon, on est toujours très bien, c'est un peu plus de 70 km parcourus. Anaïs Kemener a terminé ses 7 tours, fait tranquillement, arrivé grand sourire, à peine une goutte de sueur, et elle a laissé le relais à ses coéquipiers, justement avec Guillaume qui va passer juste après d'ici quelques tours. Guillaume, comment tu te sens là? Quelques minutes de participer à ce record.
Je suis bien, on a des bonnes conditions, il y a une bonne ambiance, on a un bon groupe, donc on va tenir la distance.
Pour l'instant, vous êtes en avance sur le record du monde, ça va tenir jusqu'au bout?
Ouais, il faut juste pas faire tomber le relais, c'est surtout ça qui fait un peu paniquer tous les athlètes, c'est le passage de relais entre tous les athlètes, mais ça devrait le faire, on va être vigilant.
Et le fait d'être dans la même équipe qu'une athlète comme Anaïs Kemener, qu'est-ce que ça fait?
C'est bien, ça amène du rythme, ça nous permet de voir qu'il y a des objectifs élevés et ça doit nous motiver.
178 tours parcourus à l'instant, il en reste 697 d'ici à demain, 278 km encore à parcourir. On est parti depuis 4h20 ce matin.
Et oui, tout se passe bien, vous l'avez compris, et en plus il y a le temps qui est avec nous, donc n'hésitez pas, Charletti ouvert, c'est entrée libre pour tout le monde pour venir nous voir. Il y a des enfants, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées en tout cas qui viennent applaudir les athlètes. Il va y avoir aussi des vedettes qui vont venir sur la piste de Charletti, je pense place à Claude de Koh-Lanta qui sera là également dans un instant. Nasser Bouani qui est passé sur l'antenne également, l'ancien sprinter, le cycliste qui s'est mis à la course à pied, qui sera là également pour faire ce relais et essayer de faire tomber ce record du monde. Restez avec nous sur RMC, on revient en direct de Charletti. A tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
Il est 18h24 en direct de Charletti, l'Intégral Sport. Intégral Sport exceptionnel puisqu'on est avec Pierre Rabadan de la Dream Team Rugby et que pour l'instant, on va essayer de battre ce record. En tout cas, pas de le battre, mais de l'homologuer. Premier record du monde pendant 24 heures, 350 km à parcourir, 144 relayeurs. Et ça se passe très bien. Pierre Rabadan qui est là a couru, il a participé à ce record. Et pour l'instant, le relais est toujours bien dans les mains des relayeurs. Ça se passe bien et encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir jusqu'à 14h demain pour voir si ce record...
On est en avance, François.
On est en avance. Je pourrais même presque y aller, moi, sur la piste.
Mais sans doute. Non, je sais le pas. Truc, c'est qu'il ne faut vraiment pas faire tomber. Moi, c'est ça qui me pose le plus de questions, notamment cette nuit. Donc, il va falloir que la bière reste dans les tribunes.
Oui, ça, évidemment. Ceux qui se préparent à courir cette nuit, j'espère qu'ils resteront sobres. Hein, la bière, c'est pour après et avec modération. Dans un instant, les dernières infos sur les Bleus à la veille du match de prépa à l'Euro face au Canada. On sera avec Jeannot Rességuier alors qu'il y a une conférence de presse de Didier Deschamps et d'Antoine Griezmann. Vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr tous les meilleurs moments. Mais d'abord, la suite de notre présentation de la grande soirée rugby sur RMC. Je vous rappelle qu'on est à la pause du match entre Vannes et Grenoble. Il y a 7-3 pour Vannes face à Grenoble en Pro D2. Il y a 7 matchs en direct de top 14, de l'enjeu quasiment partout pour cette dernière journée. On a parlé de Stade Français, Toulon décisif pour la deuxième place. On va s'intéresser à la lutte pour les barrages. Alors pour l'instant, Toulon, troisième, est assuré de faire les barrages, mais il peut aussi viser, on l'a dit, la qualif directe en demi-finale. L'UBB, quatrième, affronte Oyonnax et sera barragiste. Reste à savoir si ça sera à domicile ou à l'extérieur. La Rochelle, cinquième, et le Racing, sixième, sont pour l'instant barragistes, mais... attention, des places convoitées par Perpignan et Castres. Et justement, il y a une sorte de huitième de finale entre La Rochelle et le Racing ce soir, avec au stade Marcel Desflandres, Romain Asselin. Salut Romain.
Salut, salut.
L'enjeu est simple pour les deux équipes. Il faut gagner pour assurer sa place en barrage. Quoique, même un nul suffirait a priori.
Ouais, exactement. C'est un huitième de finale, mais un faux huitième de finale. Je m'explique. Victoire égale barrage. Match nul égale barrage pour les deux équipes qui sont pour l'instant toutes les deux dans le top 6. En revanche, là où tu pourrais avoir le feu aux fesses si t'es La Rochelle ou le Racing, c'est en cas de défaite. Là, il faudra regarder ce qui se passe à Castres et Perpignan, parce que là, ça pourrait jouer sur des cas d'égalité. Alors, les cas d'égalité, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a, ils sont nombreux, hein, l'égalité à 2, égalité à 3.
On n'a pas fini là. Sinon.
Dans l'ensemble, ils sont quand même favorables au Racing, si le Racing se retrouve dans cette situation. Il faudrait quand même aller prendre un point de bonus à La Rochelle. Si c'est La Rochelle qui se retrouve avec une défaite et que derrière ça gagne pour Perpignan et Castres, là ce serait un peu la cata. Le seul cas de figure où La Rochelle pourrait s'en sortir, c'est si Perpignan ne gagne pas avec le bonus. Donc voilà, il y a quand même un risque, Pierre, qu'il y ait un gros qui reste sur le carreau ce soir.
Ouais, clairement, tu l'as dit, l'affiche pré-quart de finale, donc un espèce de huitième de finale. Avec clairement l'équation pour les deux équipes, c'est quand même qu'il faut gagner pour s'assurer d'être en phase finale. Avec, on l'a dit aussi, Perpignan et Castres qui quand même se déplacent. Hein, et il y a l'enjeu aussi de la qualification en Coupe d'Europe qui fait que pour Pau et Bayonne, il y a aussi encore des choses à jouer. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a sur plein d'aspects des points à aller chercher pour les équipes qui ne vont pas lâcher. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va prendre le match à la légère. Mais il y a un scénario catastrophe pour ces deux équipes, que ce soit La Rochelle ou le Racing, où si elles perdaient le match ce soir et que les autres performent à l'extérieur, et ben on voit un des deux gros qui fait pas les phases finales.
Pas s'arranger sur un match nul en rugby, c'est impossible.
Déjà le match nul en rugby, il est quand même relativement rare, pour pas dire très très rare.
La Rochelle l'a fait contre Toulouse dimanche dernier.
Oui,
ça arrive.
Et Laurent Travers dans le podcast Entre les poteaux lundi disait franchement un match nul, allons-y hein. Ça arrange tout le monde hein, les gars.
Oui.
Donc il y a plus qu'à. Bon.
En rugby, c'est vrai que ça paraît quand même plus compliqué.
Après pour la confiance
à jouer.
Et puis il faut y arriver hein. Sur des scénarios de match, c'est quand même pas évident, mais je pense pas que les deux équipes vont préparer avec l'objectif du match nul. Après on verra comment ça va se tourner. Et peut-être que si à 30 secondes de la fin ils ont l'opportunité entre taper une pénalité pour faire un match nul ou taper en touche pour aller chercher la victoire, ils tenteront sûrement la pénalité.
Marcel Desflandres sera plein ce soir pour pousser les Rochelais.
Quelle question.
Oui, je sais. Quelle question.
Bah, oui, voyons. D'habitude.
On a combien? Ça 91 fait, 92
92 92.
Ouais, tu vois, je suis à jour.
Tu te rends compte, tu te rapproches petit à petit d'un événement qui sera assez incroyable la saison prochaine. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais oui, De Flandre sera plein et on sait l'importance de ce public. La Rochelle, en fait, le problème cette saison, c'est à l'extérieur. Une seule victoire à Pau en top 14. Il y a eu ce match nul à Toulouse. Heureusement pour eux, à la maison, ils assurent. Ça fait une seule défaite depuis le mois de mars 2023. Donc ça, c'est un vrai atout pour La Rochelle. Ouais. Mais l'atout principal, c'est plutôt ce qui s'est passé à Toulouse en fait dimanche. Même s'il y a eu match nul, même si la victoire leur a échappé dans les derniers instants. Franchement, les gars, il s'est passé un truc. Il y a eu des sourires cette semaine au club. Non, mais ça paraît dingue de dire ça. Mais c'est vrai. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des Rochelais qui avaient retrouvé. La banane, de la confiance, donc voilà, à confirmer face à une équipe qui débarque à De Flandre en plus avec une grosse problématique, c'est l'absence de Nolan Logarec, forfait pour le reste de la saison, pour un problème à l'épaule. Et ça, c'est quand même la tuile.
Les dynamiques de phase finale, si on a vu une belle équipe de La Rochelle, comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu conquérante à l'extérieur, si ce soir ils battent le Racing, nettement.
Attention à eux
parce que c'est quand même une équipe qui a souffert beaucoup et cette saison après les deux années exceptionnelles qu'ils ont offert au rugby français, je serais méfiant si je devais rencontrer La Rochelle en phase finale après s'ils arrivent à faire ce parcours, notamment un match abouti ce soir.
En attendant, évidemment, on va suivre ce match avec attention. La Rochelle Racing, c'est donc ce soir 21h05. Merci beaucoup Romain, on te retrouve pour l'avant-match dès 20h30 avec Thibaut Giangrande et toute la Dream Team Rugby. Il y en a qui auront un œil et surtout quelques oreilles sur ce match. C'est Julien Landry qui va commenter Pau Perpignan. Salut Julien.
François, salut Pierre.
Et Arnaud Valadon qui va suivre Bayonne Cast. Salut Arnaud.
Salut à tous.
Parce que oui, on l'a dit, Perpignan et Castres peuvent encore être barragistes. D'abord l'USAP, Julien, qui se déplace à Pau avec des Catalans qui se sont offerts le droit à vraiment de rêver. Et ils ont fait une super deuxième partie de saison.
Exactement, on s'imaginait le pire pour les Catalans après les quatre premières journées, les quatre défaites inaugurales qui présageaient le pire pour les Catalans. Peut-être encore une saison à jouer le barrage contre le perdant de cet après-midi. Et puis finalement, il y a eu ce match déclic au mois de novembre contre le MHR justement, où on se souvient qu'Arthur Vincent rate un essai tout fait et que derrière, le MHR plonge dans une spirale négative et que les Catalans, eux, ont enchaîné les victoires pour être finalement la deuxième équipe depuis la Coupe du Monde. Avec Pierre, ce terrible regret contre Clermont il y a 15 jours, parce que sans cet accro, alors que les Catalans étaient sur une euphorie incroyable, ils joueraient peut-être ce soir un barrage à domicile. Ouais. Mais voilà, comme l'a dit David Marty cette semaine, ils se sont offerts le droit de rêver. Alors évidemment, ils vont regarder ce qui se passe du Racing, mais pour eux, la priorité, de toute façon, c'est s'imposer. Et s'ils s'imposent et qu'ils font mieux que le Racing, eh bien, ils seront qualifiés en phase finale. On peut presque dire qu'ils ont leur destin entre leurs mains ce soir, les Catalans. Bien sûr, il faudra un résultat favorable, mais oui, ils se sont offerts le droit de rêver. On se rappelle, François, la dernière finale de l'USAP, les dernières phases finales des Catalans, c'est 2010, où ils avaient perdu en finale contre Clermont. Depuis 14 ans que les Catalans courent après des phases finales. Alors évidemment, les Perpignanais, ils sont déjà nombreux dans les rues de Pau ce soir. Ils vont faire encore beaucoup de bruit contre un public palois qui n'a plus la qualif à jouer, mais qui a une place européenne à aller chercher, qui va faire les adieux à Simon Whitelock. Il y a toujours Pierre, on sait dans ces derniers matchs, les bien adieux sûr. Aux partants, qui arrivent à créer aussi une sorte d'euphorie dans l'équipe partante. Mais on a l'impression que si les Catalans mettent ce soir ce qu'il faut, ils pourraient faire le gros coup de la journée au Hameau.
Super Julien, on te retrouve évidemment pour suivre ce pot Perpignan 21h05 également comme tous les autres matchs. Et puis Arnaud, tu vas peut-être vivre toi aussi une qualification de Castres, même s'ils partent d'un petit peu plus loin les Castrais.
Clairement, parce que le CO, même si on y croit, et ça fait plusieurs semaines qu'on se dit, eh bien pourquoi pas jouer une place en barrage sur cette dernière journée. C'est les propos de David Darry Carrère, l'entraîneur des trois quarts de Castres, qui partira et qui retrouvera Pierre-Henri Brocan à Brive la saison prochaine. On est conscient que c'est une infime chance. Pourquoi ? Parce que si on regarde les points terrain en cas d'égalité, eh bien les Castrais n'ont l'avantage que sur La Rochelle, qui a quand même 4 points d'avance. Donc au final, pour voir un scénario qui qualifierait les Castrais, déjà, il faut gagner tout à l'heure sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais, ce qui n'est pas chose facile, même si les Bayonnais ont perdu récemment deux matchs à domicile, c'était contre des gros cylindrés Toulon et l'UBB. Il faut gagner si possible avec le bonus, faire mieux que l'USAP, parce que l'USAP a l'avantage au point terrain, il y a égalité avec les deux équipes pour l'instant, c'est pour ça que l'USAP est 7e et le Castres Olympique 8e, et ensuite espérer que le Racing ou la Rochelle perdent sans bonus ou une défaite mais sans double bonus. Donc il y a quand même beaucoup de calculs, c'est vraiment un petit trou de souris par lequel les Castrais peuvent passer. Mais c'est vrai que Pierre, ils ont aussi l'habitude, vivons heureux, vivons cachés, les Castrais, ils ont l'expérience aussi de ces matchs couperets. On se souvient, finale il y a deux ans, champion 2013-2018. Donc voilà, on a envie d'y croire, mais ça passera par une victoire si possible avec le bonus tout à l'heure à Jean Daugé.
Exactement, tu l'as très bien dit, il faut gagner de toute manière pour les deux équipes, que ce soit Castres ou Perpignan, et puis après voir le résultat qui se passera à La Rochelle. Mais voilà, c'est une belle carte à jouer, et pour le coup, vu les saisons qu'ils ont vécues les deux, ils auraient aussi signé pour ce scénario, ouais, pour la dernière journée. Voilà, de toute façon, c'est ça qui est intéressant, le top 14, c'est que tous les matchs du jour ont un enjeu.
Ça va être
top pour ce soir à 21h.
À 20h30 même, puisqu'on va commencer à en parler dès 20h30. La spéciale sur RMC, la grande soirée rugby, Thibaut Géangrand, Yann Delec, Julien Brugnot, suivi d'un after rugby exceptionnel jusqu'à minuit pour revenir sur tous ces calculs. J'espère, messieurs, que vous avez sorti les calculettes. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Julien, et merci à tous les envoyés spéciaux que l'on retrouvera pour suivre ces 7 rencontres de top 14. Wilfried Templier vit actuellement Vannes, Grenoble, c'est à Toulouse que ça se passe, finale de Pro D2, et c'est reparti en deuxième période, Wilfried.
Et c'est reparti, une première période décevante sous pression, 7-3 pour Vannes à la mi-temps, et c'est de Camus transformé par Lafage contre une pénalité de Davis pour Grenoble. On est reparti depuis 2 minutes 30 et Jean-Noël Spitzer n'avait pas hésité à faire 5 changements entre la demi-finale et la finale dans sa compo d'équipe. Et bien à la mi-temps, il n'a pas hésité à en faire 3. Bézier a remplacé Léafa au poste de talonneur, Oshi a remplacé Desjeux en deuxième ligne, et à l'arrière c'est Gonaël Duplaine qui a pris la place de Thibaut Debaes. Il ne devait pas être complètement content de ses joueurs, ou alors c'est stratégiquement prévu. En tout cas, il y a eu 3 changements, 0 côté grenoblois, et 3 changement côté Vanté, les Vanté qui mènent 7-3. On joue depuis 3 minutes en deuxième mi-temps. On se retrouve avec une touche pour Grenoble à 35 mètres de la ligne de Vannes.
A tout de suite Wilfried pour la suite de ce match entre Vannes et Grenoble. On revient ici à Charletti en direct avec Anaïs Kemener qui a fini ses tours de piste. Elle sera avec nous dans un instant pour commenter ce qui s'est passé, parce que le record est encore en cours, évidemment. Je vous le rappelle, 350 km à parcourir, et je crois qu'Anaïs, elle a bien aidé tout le monde. Restez avec nous, on revient dans un instant. A tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
L'Intégral Sport en direct du stade Charletti à Paris avec Pierre Rabadan qui est avec nous pour suivre Vannes Grenoble, pour l'instant 7-3 toujours pour le club breton en finale de Pro D2. On est en train de vivre un grand moment puisqu'un record du monde doit être homologué au Guinness Book. C'est le record du monde des 350 km ici sur la piste de Charletti par équipe mixte, et il y a Anaïs Kemener qui a participé à ce record. Bonjour Anaïs. Alors on va juste appuyer sur le micro une fois. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu es à l'antenne, Anaïs.
Ok, bonjour.
Double championne de France de marathon 2016-2022, record du marathon sur marathon lors du marathon de Séville également en 2023. Anaïs, quand on t'a vu sur la piste, tu volais. Alors, je ne veux pas dire que c'était un peu différent de Pierre Rabadan, même s'il était assez à l'aise quand même, Pierre. Mais c'était bien. Tu as pris du plaisir à courir autour de Charletti.
Bah oui, moi j'ai adoré. En plus, j'étais la première relayeuse de mon équipe. Et là, maintenant, les autres coureurs sont encore en train de courir. Donc, c'est vrai que c'était quand même hyper sympa de pouvoir prendre le premier départ et de lancer mon équipe. Donc, j'ai vraiment aimé. J'ai fait un petit peu moins de 3 km.
Oui, c'est pas assez.
C'était pas assez pour ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Mais on laisse la place à tout le monde.
Pierre, il a fait
c'est
deux
là
tours.
Où on est différent.
Ah, voilà, Pierre a fait 2 tours, tu en as fait 8. Mais bon, en même temps, c'est pas. Voilà.
Chacun sa spécialité.
Chacun son truc.
Je suis déjà très honoré d'avoir participé à une course avec Anaïs.
Ah, voilà.
Indirectement, voilà, c'était déjà très bien.
C'est vrai qu'Anaïs, tu as une histoire incroyable. Alors, déjà, sur les Jeux Olympiques de Paris, tu ne vas pas y participer parce que tu n'as pas fait les minima. C'est digéré, là, tu passes à autre chose ou
oui,
ça
oui,
reste
oui,
un peu.
Bien
encore,
sûr. Oui, j'ai digéré. Hein. J'avais dans l'espoir de réaliser les minima olympiques lors du marathon de Séville. Mais même si j'avais réalisé les minima, je sais que j'aurais pas été prise parce que les filles, les Françaises ont fait de bien meilleurs chronos.
D'accord, donc tu vas les supporter évidemment.
Exactement.
Pendant les Jeux Olympiques.
C'est ça, on va donner de la voix.
Après, il y a d'autres Jeux Olympiques hein, plus tard.
C'est ça,
ça
2028.
Sera peut-être ton objectif.
Ça reste un objectif. Après, déjà réaliser les minima olympiques, ce sera un bel objectif.
En tout cas, tu as l'air en forme, hein, tu l'as prouvé aujourd'hui sur la piste de Charletti. Alors tu as une histoire incroyable, hein, au-delà de tes performances sportives, Anaïs, au-delà d'être une grande marathonienne, tu as une histoire que tu as racontée dans un livre, hein, qui est sorti au mois d'avril, il me semble. Tout ce que je voulais, c'était courir, où tu racontes justement ton expérience, puisque tu as eu un cancer du sein détecté à 24 ans, tu en as 33 aujourd'hui.
C'est ça.
Et donc à travers la course, à travers le sport, tu veux sans doute faire passer le message que ben après la maladie, il y a quand même une vie et on peut continuer à être une sportive de haut niveau.
Oui, c'est ça. C'était important pour moi de pouvoir justement partager, de pouvoir témoigner, pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes. Je sais que moi, quand je suis tombée malade, ça m'a beaucoup aidée de pouvoir en discuter sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Et c'est un livre qui m'a un peu permise aussi de sortir la tête de l'eau, de me dire « Ok, ben en fait, même si je suis malade, je vais pouvoir m'en sortir ». Ouais. Et je me dis qu'aujourd'hui, grâce à mon livre, peut-être que moi aussi je vais pouvoir aider d'autres personnes à s'en sortir. Donc ce serait génial.
Il y a un documentaire aussi qui est sorti, Anaïs, oui, sur cette histoire-là aussi.
Exactement, oui. Un documentaire de 28 minutes réalisé avec Salomon et Hélène Adjiani. Ouais.
Et donc voilà, cette histoire-là, évidemment, qui est très forte et qui permet sans doute à beaucoup de gens qui nous écoutent et qui font peut-être du sport pour combattre aussi la maladie. Toi, ça t'a aidé véritablement le sport à ce moment-là ?
Complètement. En fait, comme j'ai l'habitude de dire, comme les médecins me disaient même, la chimio, c'était la thérapie des malades. Et moi, ma thérapie, c'était le sport.
Ouais.
Ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est ce que je disais tout le temps, c'est que le fait de voir des gens, de créer du lien social, de continuer à voir mes amis, de continuer à prendre l'air, à voir du monde, à courir, ça a changé complètement le temps des traitements, en fait. J'avais pas l'impression d'être malade.
Et c'est vrai que c'est un message que j'imagine, Pierre, tu partages, qu'il faut absolument diffuser. Le sport, alors, c'est bien pour la tête, c'est bien pour la santé, on le sait, bien sûr, mais en France, peut-être qu'on n'en a pas pris conscience trop vite. Peut-être que les Jeux Olympiques, d'ailleurs, servent à ça aussi aujourd'hui.
J'espère que ça pourra aider
les messages, tels que
à passer
d'Anaïs
ce message, mais voilà, Anaïs, elle est au-delà de ça, parce que on parle d'un traitement lourd, d'une maladie difficile. Alors moi, dans mon entourage, j'ai eu quelqu'un qui a exactement la même histoire que la tienne. Et le sport a été aussi un vecteur majeur pour bien supporter les traitements et pour garder un niveau de santé qui permette du coup de revenir rapidement. Et ouais, on se connaît pas, mais je sais que tu disais tout à l'heure, si ça peut inspirer, on l'a déjà vu, moi je l'ai vu, mais je sais qu'il y a plein de gens que ça inspire, et notamment les gens qui tombent malades. C'est souvent d'une violence extrême, et quand on doit faire face à ça, et ben d'avoir des relais, des gens qui ont eu cette expérience. Et moi, la personne en question, elle a maintenu une activité physique permanente pendant les traitements, et c'est ça qui fait aussi que tu supportes mieux les traitements. Donc c'est un cercle vertueux quand tu arrives à faire de l'activité physique. Donc voilà, c'était, je pensais pas avoir l'occasion de te le dire, mais je profite de l'antenne.
Grâce à RMC et grâce à ce record du monde que l'on va continuer à battre, ça se présente bien. Tu penses que ça y est, le record est sur la bonne voie, que demain à 14h les 350 km seront parcourus?
Moi, je pense qu'ils seront parcourus largement. On va continuer à encourager.
Attention, parce qu'il y a l'équipe d'RMC qui arrive. Je sais que demain, il y a Benoît Boutron, il y a Jérôme Retaigne, il y a Jean-Louis Tour. On va peut-être perdre du temps, hein. J'espère que t'as...
Moi, j'ai peur qu'il fasse tomber le relais. Ça.
Arrête avec ça, ça ne tombera pas. C'est vrai que c'est le petit stress.
C'est vrai que c'est un peu le stress. Même moi, tout à l'heure, quand je courais avec, je le tenais bien fort en main en me disant non, surtout pas.
Bon, en tout cas, si on a besoin de toi pour remonter, pour l'instant, ils sont très bien. Le temps est parfait. Voilà, on va continuer sur ce rythme-là. Et je te le dis, Anaïs, tu as bien aidé tout le monde pour justement battre ce record. J'espère que ça t'a fait plaisir, autant que nous en tout cas, que tu aies pu participer à ce record.
Bien sûr, moi je suis hyper contente d'avoir pu participer et justement de pouvoir rencontrer un petit peu tout le monde. Je trouve que les équipes, elles sont hyper bien faites, et c'est génial en fait de pouvoir mélanger un peu tous les publics, qui est entre guillemets un champion qui représente son équipe, avec toute l'équipe qui est soutenue. Enfin, vraiment, je trouve que c'est génial et je suis très contente d'être là.
Bah écoute, on
très bon concept RMC.
Ouais, ça a bien fonctionné, et merci beaucoup d'avoir joué le jeu.
Bah merci.
D'être venu à Charletti, et n'hésitez pas, on vous l'a dit, il y a Paula Radcliffe qui était là tout à l'heure. Voilà, il y a des stars du sport qui sont là et qui peuvent venir vous parler. Donc n'hésitez pas, entrée libre pour tout le monde. Il y a des beaux messages aussi à faire passer à travers ce record que RMC va tenter d'homologuer demain, on l'a dit, 14h. Donc jusqu'à 14h, vous venez au stade Charletti. En plus, il fait beau, donc on a de la chance, et la piste de Charletti est magnifique. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci beaucoup à vous.
Et
merci,
à très bientôt. À bonne bientôt. Continuation à toi. Et on va tout de suite faire un petit point sur ce qui se passe entre Vannes et Grenoble avec toi, Wilfried, dans ce match très très serré, finale de Pro D2.
53e minute, tu l'as dit, très serré, 7-3, toujours le même score qu'à la mi-temps, 7-3 en faveur de Vannes. Essai de Camus transformé par Lafage contre une pénalité de Davids, mais les Grenoblois ont eu un bon début de deuxième mi-temps sans concrétiser, en faisant trop de fautes, et les Vannetais se sont réinstallés dans ce match. Et là, après une touche, on l'a sorti avec le public qui est là, on rappelle 5000 Bretons dans le stade d'Ernest Vallon pour le ticket, cette finale de Pro D2, le ticket pour le top 14. Et bien sur le dernier temps fort dans les 22 mètres, avec un gros travail des avants, il y a eu une position de hors-jeu des Grenoblois. Il y a une pénalité à l'instant, 23 mètres à droite des perches, pour porter le score à plus 7 si Maxime Lafage, le meilleur buteur vanté cette saison, réussit cette pénalité. Elle est très importante, Pierre, tu sais très bien que tous les points comptent évidemment dans une finale, et puis surtout pour, que je le disais, s'installer mentalement, prendre le dessus dans ce match. Lafage, le ballon qui part bien et qui passe entre les poteaux, ça exulte, ça sort les drapeaux bretons dans les tribunes sud d'Ernest Vallon et tout autour. 10 pour Vannes, 3 pour Grenoble, 55e minute, et les minutes qui vont suivre seront importantes pour Vannes et Grenoble.
Ouais. Merci Wilfried, on revient dans un instant dans l'intégral sport en direct de Charletti. On va faire un point également sur l'équipe de France de foot, puisque Jeannot Rességuier nous rejoint à la veille de France-Canada. Quelle équipe pour France-Canada, quelle équipe pour l'Euro? Peut-être qu'il y a eu quelques réponses en conférence de presse. Jeannot va tout nous dire, restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
Il est 18h52 avant de retrouver Stephen Time ici en direct à Charletti, dans le stade Charletti, où en ce moment RMC tente d'homologuer un record du monde de course par équipe en relais. Ce sera un record à battre jusqu'à demain 14h, puisque c'est sur 24h 350 km à parcourir. Toujours 10-3 pour Vannes face à Grenoble. On retournera à Toulouse dans un instant pour suivre cette finale de Pro D2. Mais d'abord, on accueille Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Ah oui, malheureusement tu n'as pas pu faire les tours de piste à Charletti, puisque tu es à Bordeaux.
Ça c'est plus de mon âge, ça, excuse-moi.
Pour suivre bien sûr l'équipe de France, le destin des Bleus avant l'Euro. L'Euro, c'est, ça sera lundi 17 juin pour l'équipe de France. Mais il y a un match de prépa, le dernier, ça sera face au Canada demain 21h15 exactement. Il y avait Didier Deschamps et Antoine Griezmann en conférence de presse. Est-ce que on a une idée de ce qui, de à quoi va servir cette rencontre face au Canada? Est-ce que ça va servir à mettre en place l'équipe type, par exemple?
On va s'en rapprocher parce que de toute façon il y a un petit point d'interrogation autour de Kylian Mbappé pour demain, puisque déjà le capitaine ne s'est pas présenté en conférence de presse. C'était le vice-capitaine qui était là, Antoine Griezmann. Il n'a pas participé à la séance. Il a été ménagé, nous a-t-on dit, principe de précaution, sans plus d'informations. Et donc dans la séance à huis clos, il y a eu un travail spécifique avec une mise en place sans donc Kylian Mbappé, avec dans le secteur offensif Dembélé, Giroud et Thuram décalés sur le côté gauche, Kamavinga avec Kanté au milieu de terrain, et puis derrière Koundé, Konaté, Upamecano et Théo Hernandez avec Maignan dans les buts. Donc ça veut dire pas trop de changements par rapport à l'équipe du Luxembourg. On reste quand même sur la possibilité de voir Mbappé débuter le match demain, hein, puisqu'encore une fois on nous a expliqué qu'il a été ménagé, ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, eh bien on aurait Thuram dans l'axe et Mbappé sur le côté gauche, ce qui ferait encore moins de changements. Et si j'ai bien compté, il y en aurait que deux, avec notamment la titularisation de Dembélé et de Kamavinga. On a profité pour poser la question à Didier Deschamps sur le fait qu'après le match du Luxembourg, il avait évoqué la volonté d'ajustement, et notamment dans le secteur offensif. Je vous propose d'écouter la réponse et les précisions du sélectionneur.
Tout dépend après ce que fera l'adversaire aussi, mais c'est plus des ajustements, des positionnements un peu différents pour être moins prévisible pour l'adversaire. Alors ces différentes actions, c'est pas toujours on a eu l'occasion de le faire, pas longtemps parce que les séances, on n'a pas énormément de temps, mais à travers c'est pas que sur le terrain, c'est à travers les discussions que j'ai avec les joueurs, leur ressenti, et amener ces petites modifications ou options différentes pour être plus complémentaires.
Voilà, donc en gros, François et Pierre Avadon, quand on parle de l'aspect organisation du jeu de l'équipe de France, c'est tout simplement le fait qu'il y a cette défense à 3 quand l'équipe de France a la possession du ballon, permettant à Théo Hernandez de prendre un peu plus le couloir, d'avoir un Kanté qui touche un peu plus le ballon, et donc du coup un Antoine Griezmann qui doit se repositionner ou mieux réfléchir à son placement. C'est lui-même qui l'a expliqué d'ailleurs, parce que à ce moment-là, il est moins efficace quand il touche moins de ballons. C'est donc un peu l'objectif de demain contre le Canada, et dans la perspective du match contre l'Autriche. Hein, c'est dans 9 jours et on sait que Didier Deschamps est toujours omnubilé par la réussite du premier match. Et quand on lui a posé la question à Antoine Griezmann, il a dit on mange autrichien depuis le début du rassemblement. À chaque repas, on a les écrans dans la salle à manger où il y a les matchs des Autrichiens qui jouent en ce moment contre la Suisse, qui ont battu la Serbie et qui sera très certainement l'adversaire le plus compliqué à gérer. Donc voilà à quoi va servir ce match demain contre le Canada, avec des joueurs physiques et dont le profil va ressembler de très près aux Autrichiens.
Très bien, Jeannot, bah, merci beaucoup. Évidemment, d'autres infos à retrouver sur rmcsport.fr et on te retrouvera pour parler de tout ça à partir de demain, ce France-Canada à suivre sur RMC à partir de 21h15. Donc dimanche, le temps, le score, Wilfried, puisque le temps évolue entre Vannes et Grenoble.
Ah oui, ça a bougé, c'est important. Il y a eu un contre Vanté de leur 22 mètres avec encore un numéro de Romaric Camou. On rappelle que les Vanté menaient 10-3, un numéro de Romaric Camou, l'auteur du seul essai Vanté dans ce match. Et puis derrière, on a joué dans le fermé Kourou, mais position de hors-jeu des Grenoblois. Et 38 mètres à gauche, elle n'était pas facile, hein. Pénalité pour les Vanté que réussit Maxime Lafage. Et donc Vannes maintenant 13-3, plus 10 pour les Bretons à l'heure de jeu. On y arrive, 60e minute. S'ils sont pragmatiques, s'ils sont sérieux les Bretons, ils sont bien lancés pour l'instant pour aller rejoindre le top 14. Il reste 20 minutes évidemment, mais ils sont en train de prendre le dessus sur Grenoble.
Et on va suivre ça bien sûr, merci beaucoup Wilfried. On va suivre ça avec Stephen Time, Stephen Brun, Benoît Boutron ici au stade Charletti. Merci beaucoup Pierre, je te retourne faire des... je te laisse faire des tours.
Ouais, je vais faire 4-5 tours là.
Ouais, parce que je te sens que là t'as encore besoin de courir.
Ouais.
Ça a été parfait.
C'est trop court.
Merci beaucoup. Grande soirée rugby non plus. À ne pas oublier, bien sûr, ce soir après Stephen Time. C'est tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous. C'est ici que ça se passe, en direct de Charletti. Journée exceptionnelle qui se poursuit. À tout de suite.